Dans le tempo, c'est l'épisode 38. On y va. Thomas présente. Dans le tempo. Mon cher Daz, comment vas-tu ?
Salman, ça va ou quoi ?
Écoute, ça va très très bien. Bienvenue à tous dans le podcast des passionnés de musique.
Oui.
Le meilleur podcast du monde.
Ouais, je sais pas si on peut dire ça.
Rentre dans le jeu avec moi. Dis que c'est le meilleur. Ouais, mais c'est pas vrai,
pour moi, c'est le meilleur. Même si. Mais faut se modestie. Non, c'est vrai, faut pas dire ça.
Alors, demandons à Raphaël. Raphaël, on est d'accord que dans le tempo, c'est le meilleur podcast du monde.
C'est pas mal, mais ceux sur lesquels je travaille, ils sont quand même mieux. Tu vois.
C'est vrai. Tout le monde a la même réponse.
Ouais,
on préfère ces trucs.
Ouais, c'est incroyable.
Avec qui sommes-nous, Daz?
Nous sommes avec Raphaël Dacruz, une sommité
absolument
d'un style musical qui me fait très plaisir d'aborder dans cette émission. Parce
tu veux
que...
dire qu'on va parler de rap?
Bah ouais, putain, il était temps quand même, 38
mais
épisodes.
38... Mais arrête, on a parlé de rap déjà plein de fois.
Non mais je l'infuse, tu vois, mais c'est pas du rap. Avec Florian Lecerf, on avait parlé business, rap
c'est
business,
vrai.
Tu vois.
Absolument.
Là, on va parler vraiment de la culture, on va parler de la musique. Tu vois.
C'est vrai.
Et moi, ça m'enjaille.
Merci beaucoup,
content.
Raphaël, d'être venu nous voir.
Avec plaisir, merci pour l'invitation.
Bah attends, c'est nous qui sommes honorés de recevoir Raphaël. On va te présenter quand même rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
Très bien.
Bon, comme le disait Daz, figure du milieu rap quand même, médiatique en tout cas.
J'ai toujours du mal à mesurer le.
C'est vrai, ton impact,
ton
influence.
J'en sais rien.
Est-ce que si on dit que Mehdi Maizi est l'Olivier Cachin, nouvelle génération, est-ce qu'on peut dire que Raphaël Dacruz est le Philippe Manœuvre du rap?
Oh non, je pense pas.
Tu crois pas?
Non, je pense pas.
Un peu moins maniéré déjà.
Peut-être.
Ouais, et puis en plus, il y a une temporalité, tu vois. Manœuvre était là avant Cachin, tu vois. Je pense que Cachin était le Manœuvre du rap au début des années 90, d'une certaine manière, tu vois.
Ouais.
Que Mehdi, effectivement, aujourd'hui, est devenu peut-être une des figures
Cachin,
d'une certaine manière. Je suis casse-cribouillard, moi.
Il exagère. Bon, en tout cas, tu travailles régulièrement avec Bouscapé, l'ABCDR du son depuis une bonne dizaine d'années.
Ah, tout à fait, ouais, 13 ans cette année.
Ouais. On t'a vu aussi chez Move, chez Au Calme à l'époque, dans La Sauce, justement avec Mehdi Maizi qu'on évoquait, dans le podcast No Fun aussi. Tu fais plein de trucs.
Apple.
À la fois, tu apparais en vidéo.
Apple Music aujourd'hui, c'est vrai.
Dans le nouveau format que
vous avez lancé. Le Code Review, justement.
Le Code Review, absolument. Ouais, là, un peu plus de regard critique.
Exactement.
Absolument. Chronique, radio, etc. Podcast aussi, parce que tu as, je sais que ça te tient à cœur. Tu as ton podcast donc sur l'histoire du rap en plusieurs épisodes.
Tout à fait, chez Move, du béton au nuage, ouais, tout à fait.
Et tu avais un autre podcast aussi
Qui s'appelait La Source, à l'époque justement de No Fun, qui a duré qu'une saison, mais sur lequel on revenait sur les filiations musicales, le sampling, les reprises, etc.
Puis l'actualité, podcast pour toi, c'est BPM.
Tout à fait.
Où là, tu t'arrêtes vraiment sur le beatmaking, il reçoit des producteurs à chaque fois, c'est passionnant, allez écouter BPM.
Merci beaucoup.
C'est chez Bouscapé.
Chez Bouscapé, tout à fait.
Absolument.
Bravo.
Tu sais, il y a un truc que je kiffe avec Raphaël. J'apprécie ton travail de manière générale.
Ça me fait plaisir, merci beaucoup.
Et ce qu'on ressent, c'est que déjà, tu as une formation de journaliste, ce qui n'est pas forcément la norme dans les médias rap.
Ouais, ou dans les médias musicaux de manière générale,
C'est vrai. Et on le retrouve dans ton ton, il y a une certaine exigence, franchement, que je trouve intéressante.
J'essaye.
Et surtout, il a cette capacité, tu sais, à faire un pont entre à la fois de l'actualité, une ouverture évidemment pour tout ce qui est récent, même un enthousiasme pour tout ce qui est récent, et en même temps ce rapport au patrimoine,
se rappeler
à l'histoire,
d'où vient,
etc. Absolument. Et c'est pareil, ça c'est pas un truc que tous les médias rap mettent en avant ou tous les journalistes rap mettent en avant. Donc je pense que ça va nous être utile, cette expertise, parce que Daz, ce que j'aimerais qu'on fasse dans cet épisode, c'est une espèce d'arrêt sur image de la situation du rap français aujourd'hui.
Oh.
Ça peut paraître très ambitieux.
Le dire comme ça veut dire
Je sais.
Ouais.
Non, mais en gros, et notamment, en fait, avec une spécificité, c'est que comme Raphaël est vraiment dans le milieu rap, et qu'il est un fin observateur, et qu'il est même partie prenante du rap, c'est d'avoir aussi un peu ce retour, tu sais, du regard que porte le rap sur lui-même. C'est-à-dire que, comment ça se passe? Alors, j'avais pensé à trois parties, vous allez me dire si ça vous voit, les gars. À la fois s'arrêter un peu sur l'esthétique sonore du rap aujourd'hui. Comment aussi, est-ce qu'il y a des chapelles qui existent dans le rap, par exemple? Donc cet aspect-là au niveau de l'esthétique sonore, au niveau aussi des discours, du social, de l'importance que prend le rap aujourd'hui. Et on sait aussi que pareil, il peut y avoir des différences, de la diversité au sein du rap. Mais enfin, si on a le temps, parce qu'on va être un peu limité par le temps, on va essayer de faire quand même d'aborder ça d'un point de vue économique aussi. Parce que le rap est devenu un genre extrêmement influent, avec une économie qui lui est propre aussi, et qui est globalement florissante quand même, ou en tout cas, dans lequel il y a de plus en plus d'argent. On voit qu'il y a de plus en plus de marques intéressées par le rap, etc. Et j'imagine que ça apporte aussi de nouvelles problématiques, peut-être des formes de tension, des approches différentes.
De l'argent comme source de tension?
Non, ça n'arrive jamais.
Jamais.
Pas du tout, pourquoi? Surtout dans le rap. aucune raison.
Non, absolument pas, ça n'arrive jamais. Non. Bon, en tout cas, on va quand même en parler pour voir si ça
arrive. Oui, très bien, très bien, très bien. Ces trois parties me vont bien, de toute façon, tu sais très bien qu'on va tricoter autour et qu'on va les oublier, donc c'est pas
mais
grave.
Mais je compte sur toi, de toute façon, pour casser tout mon déroulé.
Allez,
là,
c'est parti.
Raph, on peut t'appeler Raph, ça te va ?
Ça me va. Allons-y avec cette familiarité, ça me va.
Commençons une première partie pour parler un peu justement des esthétiques rap. Est-ce que tu peux nous dire, j'imagine que comme dans tous les genres musicaux, dans le rap, il y a plein d'esthétiques différentes. Est-ce qu'on peut faire un peu référencer les plus importantes aujourd'hui ? La scène rap, comment elle se décline en termes d'esthétique sonore ? Qu'est-ce qui te vient un peu à l'esprit comme ça ?
C'est vrai qu'au fur et à mesure des années de l'histoire de cette musique qu'on avance après année, il y a une arborification pas possible en fait du rap. Et y a, chaque fois qu'il y a une nouvelle branche, il y a trois pouces qui arrivent et ça devient infini. Quoi. Au point qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se demandent est-ce que le rap
en tant que tel
existe encore ? En tout cas, quand justement on écoute ces sous-genres de rap, est-ce qu'on en a encore ? Mais je pense que l'hybridation, c'est propre à toute musique actuelle et contemporaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rap en France, mais de manière générale, ça n'a jamais été aussi diversifié avec toutes ces hybridations que ça l'est aujourd'hui. Donc c'est difficile de répondre en fait, est-ce qu'il y a vraiment des chapelles très établies comme ça pouvait l'être dans les années 90 par exemple, où c'était en plus très régionalisé, en tout cas avec les scènes américaines et leur importation en France avec des sons spécifiques. Je pense qu'avec l'ère d'Internet, depuis 10-15 ans, tout ça s'est très mélangé. Les frontières sont de plus en plus floues, où il y a des artistes qui peuvent appartenir ou se réclamer ou avoir une esthétique qui se rapproche d'un sous-genre, mais aussi d'un autre et encore d'un autre, et être proche d'autres artistes, etc. Donc c'est très compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans le rap français, ça fourmille quoi, ça fourmille. Alors je vais utiliser un mot. Je commence déjà à faire mon journaliste chiant.
Je vais utiliser
un mot presque de géopolitique, mais une forme de balkanisation du rap français. Ouais. C'est-à-dire que comme
Patrick Balkany.
Pas de Patrick Balkany. Il y a un peu une balkanisation aussi. Voilà.
C'est autre chose.
Mais ouais, effectivement, des Balkans où effectivement on avait cette forme d'un pays qui était uni par son histoire et finalement il y a par des spécificités de chaque population, tu vois, qui s'est fracturée. Aujourd'hui, dans le rap, c'est presque ça. Il y a parfois, alors c'est aussi le propre des réseaux sociaux d'être pas nuancé ou d'être très vindicatif ou
très polarisé.
Viscéral, très polarisé, exactement, c'est le mot polarisé, où tu vois que des auditeurs de certains artistes et d'autres, ils s'entendent pas du tout en fait. Ils écoutent tels artistes, ils écoutent plus. Ils ont l'impression de plus écouter forcément la même musique.
Est-ce qu'il y a une notion de commun quand même ? Est-ce que le rap, on se met d'accord pour dire par exemple que je sais pas, c'est une forme, que c'est une culture avec une histoire ? Est-ce qu'il y a des codes quand même qu'il faut ?
Je pense que de toute façon, il y a cette importance du battement, du beat, de cette rythmique très mise en avant. Qui est aujourd'hui très diversifié parce que encore une fois il y a eu l'influence des musiques du sud des États-Unis qui sont très lentes, plus synthétiques aussi avec beaucoup plus de synthé, d'instruments justement synthétiques quoi et pas organiques là où d'où pouvaient venir les samples etc. Il y a eu tout l'apport particulièrement en France et ça c'est une spécificité française qui est intéressante de noter de toutes les musiques des diasporas des anciennes colonies françaises. Que ce soit
ce qu'on appelle la Zumba de nos jours.
Oui, et qui a un mot qui est trop réducteur en fait.
Bien
parce
sûr,
que finalement, il y a tellement de nuances et de richesses possibles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je pense qu'il faut reconnaître ça. Des apports caribéens, des apports africains, des différents pays d'Afrique, parce qu'il y a plein de musiques justement de différentes. Et même en fait des musiques populaires françaises. Voilà, il y a parfois des influences qu'on peut ressentir de la variété des années 80, de la musique électronique française, justement, de la fin des années 90 quand il y avait cette scène French Touch. Donc il y a plein de choses très, 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 très différentes, avec en plus encore toutes ces hybridations avec des musiques actuelles, de la musique électronique qui peuvent infuser le rap aujourd'hui. Donc il y a vraiment plein de choses. Je pense qu'encore une fois, c'est la place importante du battement, de la rythmique très mise en avant, qui fait que c'est une sorte de socle commun. Mais autour de tout ça, il y a tellement de choses qu'on peut tricoter, et il y a tellement d'artistes qui ont poussé des esthétiques plus loin, qu'effectivement, parfois c'est difficile de s'y reconnaître et pour un auditeur qui est habitué à un style de rap ou certains styles de rap, de tout apprécier, de pouvoir tout englober en tant qu'auditeur, quoi.
Pour nous faire part un peu de cette diversité, est-ce qu'on peut citer, parce que je pense qu'un truc qui est acquis depuis longtemps, tout le monde a compris par exemple que la trap, ça a été un truc important. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, j'ai l'impression. En tout cas,
parce qu'en fait, l'esthétique trap, elle s'est beaucoup plus diffusée en fait aujourd'hui. C'est tellement.
Tu peux nous rappeler juste un tout petit peu. D'autant plus que t'as écrit un texte.
J'ai participé à un livre, tout à fait, qui est sorti chez Audimat et Divergence. C'était une coédition entre deux sociétés. C'était un recueil d'articles qui s'appelle Trap. Donc on était plusieurs auteurs français, mais aussi étrangers à écrire sur la trap. Moi, j'ai écrit un article sur comment justement. Ce style musical trap qui est en gros né à Atlanta mais de plein d'influences différentes de d'autres scènes du sud des États-Unis est devenu le maître étalon du rap standard, en fait. Contemporain là ouais. où effectivement les rythmiques des années 90 héritées
le boom bap et tout ça
exactement ouais. c'était le maître étalon du rap jusque là depuis le milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui en fait le vrai maître étalon c'est la trap donc c'est des rythmiques qui sont plus lentes des rythmiques où justement il y a une plus grande importance des instruments électroniques et synthétiques où là où dans les années 90 justement en englobant plein de choses le boom bap il y avait cette rythmique très droite de dans la trap, il va y avoir des roulements, par exemple, ce genre de choses, une note repeat. Et voilà, exactement, il va y avoir des roulements. En fait, comme les rythmiques sont plus lentes, on a plus le temps et la place de rajouter des choses dans les rythmiques, notamment. Au départ, la trap, c'était une musique très très inspirée parfois de la musique de films d'horreur, donc ça pouvait être très sombre, très noir, des films d'horreur de série B un petit peu avec un instrument qui s'appelle le thérémine, c'est un instrument électronique où on met sa main.
On en a parlé.
Voilà, exactement.
On en a parlé,
donc voilà ce genre de choses. Et en fait, au fur et à mesure, ça a évolué en englobant plein de choses de l'histoire de la musique afro-américaine, mais aussi de plein de musique électronique, par exemple. Donc ouais, en fait, de la même manière que le rap. Ça s'est nourri plein de choses, la trap aussi, et c'est pour ça qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, tout est trap et plus rien n'est trap d'une certaine manière, ouais. tellement ça s'est diffusé, tellement ça a été intégré par des générations d'auditeurs qui sont nés en fait avec ce genre musical, ou en tout cas qui ont découvert le rap à travers ce genre musical.
Et y compris en dehors du rap d'ailleurs, ça a essaimé.
Exactement.
Typiquement, les notes repeats sur les hi-hats, etc., c'est un truc qu'on entend en plein.
Qu'on entend dans la pop en fait, ça.
Absolument.
De la même manière, on va dire, le rap. De G-Funk et globalement du sud de la Californie a infusé la pop musique à un moment. Baby One More Time, Hit Me Baby One More Time par exemple de Britney Spears. Ça pourrait presque être un truc inspiré par Dr. Dre, tu vois, d'une certaine manière, dans la manière dont ça sonne. Les Suédois, ils sont très forts pour ça, justement, pour adapter ce genre de code. La trap, en fait, on a entendu des choses chez Katy Perry, chez Ariana Grande, où en fait, t'entends des codes esthétiques qui viennent de la trap. Donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, la trap, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que ça n'existe plus vraiment en tant que tel. Il y a encore des artistes aux États-Unis, en France, qui reprennent, disons, tous les codes de la trap pour le faire, tu vois.
Le cahier des charges.
Exactement.
De la trap.
Mais ouais, ça s'est tellement diffusé qu'en fait, la trap aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire spécifiquement, quoi.
Mais est-ce que, parce qu'on parle de l'esthétique sonore au niveau musical, est-ce que pour faire de la trap, par exemple, il faut aussi avoir le discours du Beatraver,
c'est la base de ce qu'est la trappe, effectivement.
À la base, ouais. Ah,
voilà.
C'est ça. Mais est-ce que, aujourd'hui, si j'utilise une rythmique trappe, mais que je parle de mon amour pour, je sais pas moi, les voyages, ouais. est-ce que c'est encore de la trappe, tu vois?
Non, effectivement, il y a des trips.
La trappe
marama, c'est du trip, pas mal. Trip music. Non, effectivement, tu vas avoir des codes esthétiques qui seront liés à la trappe, mais t'es pas un trapper rapper, quoi. Tu fais effectivement plus ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou.
Ouais. Est-ce que on peut considérer que la trap est la dernière grande révolution esthétique dans le rap?
C'est ce que je considère, en tout cas, moi. C'est comme ça que j'avais d'ailleurs nommé mon article. Parce que c'est effectivement la dernière qui a été très influente. En fait, c'est toujours, je pense, une question d'alignement des planètes à un moment donné. C'est une question de temps et d'espace. La trap, il s'avère qu'effectivement, c'est un sous-genre parmi tant d'autres au moment où ça apparaît, en gros, sur la première moitié des années 2000. Mais il s'avère que c'est celle qui a réussi à s'imposer, cette esthétique-là, qui a réussi à s'imposer et à durer dans le temps et à redistribuer les cartes, quoi. Il n'y en a pas eu d'autres depuis alors il y a eu des genres très influents. Je pense que ce qu'on appelle globalement le cloud rap, qui est aussi un peu comme la Zumba, un peu un mot tiroir dans lequel on peut mettre plein de choses. Mais ça a été très important aussi jusqu'à un phénomène comme PNL en France, par exemple.
Tu peux nous le décrire un tout petit peu?
Le cloud rap, en fait, ça apparaît à la fin des années 2000, début des années 2010. C'est en fait c'est une invention là où le mot trap c'est vraiment un truc ancré dans une réalité qui existe par les c'est un mot qui existe par les personnes qui ont fait cette musique donc en gros les vendeurs effectivement de drogue d'Atlanta. Cloud rap c'est un mot qui a été inventé par un journaliste en fait. Il s'avère qu'il y a un artiste qui s'appelle Lil B qui est un artiste californien qui collabore à cette époque-là avec un producteur qui s'appelle Clams Casino. Et Clams Casino, c'est quelqu'un qui a un son très lo-fi, donc un son très brouillé.
Avec des nappes un peu.
Voilà, des nappes mais qui sont très, très sales, ouais, etc. Ah ouais. Mais il allonge les sons. Et c'est là encore, tu vois, où je pense que c'est quelqu'un qui a été aussi influencé par la trap, d'une certaine manière. C'est des rythmiques qui sont très lentes, qui prennent beaucoup d'espace. Et il y a notamment un morceau qui s'appelle I'm a God, je crois. Et
ben, tu sais quoi, on peut s'écouter.
Voilà, de Lil B.
De Lil B, ouais, exactement.
Ouais. Et ben, écoute, on s'écoute un extrait de ça.
Qui avec un sample de Imogen Heap, artiste anglaise, si je dis pas de bêtises.
Je crois qu'elle est irlandaise, un truc comme ça, à vérifier.
On va dire britannique pour bien trigger les gens.
Voilà.
Donc voilà, tu vois, le sample qui est passé dans une piscine.
Exactement.
Mais c'est lié aussi au, tu vois, à la, l'émergence du lean, du purp, de toutes ces drogues là, tu vois, la codéine qui te met dans des états
oxycodone, ouais, qui sont des vrais problèmes de santé publique,
oui,
aux États-Unis,
ouais, ouf,
oxycodone,
ouais,
etc. Tous ces analgésiques en fait. Et donc voilà, donc typiquement, dans une interview, Lil B dit, il répond à une question du journaliste, lui demande, tu en gros, ta musique pour toi ça représente quoi, ou qu'est-ce que tu voudrais que les gens aient comme image, et il montre une photo d'un château dans les nuages. Et en fait, à partir de là, le journaliste, je crois que c'est ça l'histoire, hein, il dit, bah en fait, on pourrait presque appeler ça du cloud rap. C'est quelque chose de très aérien,
très éthéré, ouais,
presque même, parfois très très abstrait et onirique dans leur manière de rapper de certains de ces artistes. Et donc c'est devenu le cloud rap qui ensuite a été remanié de manière très différente par plein d'artistes. C'est pour ça que par exemple, quand PNL arrive et justement qu'ils ont une musique très lente, très aérienne, justement très éthérée, certains ont dit bah c'est aussi ça le cloud rap d'une certaine manière.
Est-ce qu'il y avait une inspiration directe assumée?
Alors PNL n'a jamais donné une interview, donc c'est compliqué. Ce qu'on sait, c'est que PNL par contre ont été très influencés par des artistes de la scène de drill de Chicago, la drill originelle quoi. Notamment Lil Durk, par exemple QLF, que la famille ça vient de OTF, Only the Family. Et donc y avait beaucoup de morceaux dans cette scène là, en plus des trucs très nerveux qui ont donné jusqu'à aujourd'hui la drill contemporaine, on va dire. Il y avait aussi des trucs plus lents, avec beaucoup de voix chantées sous autotune, etc. Ils ont plutôt été influencés par ça, mais il se peut aussi que les producteurs avec qui ils bossent sont des gens qui ont été influencés, par exemple, par ça. On sait, par exemple, il y a le morceau Le Monde ou Rien, par exemple, quand on écoute le morceau Le Monde ou Rien, ça ressemble beaucoup à ce que pouvait faire quelqu'un comme Bryson Tiller, qui vient de Toronto. Donc cette musique OVO qu'a popularisé Drake, avec justement quelque chose de très lent, quelque chose de très éthéré, tu vois, cette espèce de guitare blues, etc.
Si tu mets un extrait,
vas-y, carrément.
Allez, Le Monde ou Rien de PNL, toujours pour illustrer un peu cette scène clown.
Allez. Purchase your track today.
Alors pour le coup, non, c'est vraiment des producteurs. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un Américain et un Français qui ont produit ça.
Tu sens là, tu vois que t'es sous opiacé là.
Voyez les longues nappes comme ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a rattaché médiatiquement et aussi peut-être publiquement, les gens ont rattaché PNL à cette club rap au début. Et donc c'est quelque chose qui a aussi été très influent, parce que d'un seul coup ça laisse des possibilités mélodiques, même de cadence, qui sont nouvelles au moment où PNL popularise ça. Et donc ouais, c'est encore un sous-genre qui a été très populaire, mais en France il y a évidemment Gims qui a posé des bases quand il fait des morceaux comme Ça paie comme jamais, etc. Mais je pense que quand MHD arrive et qu'il fait l'afro trap, ouais, d'un seul coup, il y a ce truc de OK, donc on peut reprendre ces rythmiques très cadencées, chaloupées, qui viennent des musiques afro-caribéennes, et on peut en faire des morceaux très rap agressifs. Il y a presque quelque chose de grime au début quand MHD arrive. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il a eu son petit succès, sa petite reconnaissance outre-Manche. Et je pense que d'un seul coup, il y a plein de rappeurs qui se sont dit « Ah ouais, donc je peux aussi rapper de manière agressive comme je le fais sur la trap, mais sur ce genre de rythmique-là. » Et c'est pour ça encore qu'aujourd'hui, ces rythmiques afro-caribéennes, parce qu'en plus elles viennent en héritage. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des artistes qui ont grandi.
Ils ont grandi,
c'est la musique de leurs parents, en fait. Ouais, que ça vienne d'Afrique de l'Ouest, du Congo, etc. C'est des musiques avec lesquelles ils ont grandi. Donc, ils sont à l'aise avec le fait de faire ce genre d'hybridation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de rappeurs qui ont toujours sur leurs albums des trucs où c'est presque quasiment du zouk par moment. Mmh. C'est-à-dire qu'eux, ils vont se mettre à chanter des trucs d'amour, etc. sur cette truc chaloupé de. Voilà. Et Le, ces dernières années, je dirais depuis le milieu des années 2010, le rap français n'a fait que s'enrichir de cette manière-là, et c'est pour ça qu'on revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que c'est difficile aujourd'hui de dire ce que c'est le rap. Et d'ailleurs, j'ai envie de mentionner un ouvrage qui est un ouvrage plutôt universitaire, donc ça peut être un peu technique à lire, mais c'est hyper intéressant, de plusieurs justement universitaires et auteurs qui parlent de musique au pluriel hip-hop.
Okay.
Parce que justement, ces auteurs-là considèrent qu'aujourd'hui, si on prend cette base commune qui est la culture hip-hop et les musiques qui l'ont créée, notamment le R&B contemporain, en fait, finalement, le R&B, ce qu'on appelait le hip-hop soul, par exemple, avec Mary J. Blige au début des années 2000, ce R&B contemporain, finalement, c'est aussi une musique hip-hop parce qu'il y a cette rythmique, ce battement synthétique, en tout cas qui sonne artificiel, mis en avant, avec cette manière de chanter héritée de la grande soul des années 60, 70, 80.
Et ça offre une alternative au fameux urbain, en plus.
Exactement. Ouais. Et je trouve que c'est le propos des auteurs de ce livre-là, qui est notamment piloté par quelqu'un qui s'appelle Karim Amou, que je salue, qui est un grand sociologue.
Rap,
ouais, exactement. Qui est un sociologue qui fait un boulot formidable, mais tous les auteurs sont hyper intéressants. Il dit, en fait, finalement, c'est plus légitime de parler de musique au sens, au pluriel hip-hop, parce que ça permet d'évacuer ce truc de pop urbaine ou de musique urbaine qui est trop réducteur, parce que il y a des gens à la campagne qui font aussi du rap, du R&B ou ce genre de musique associée. Est-ce que ça a du sens de parler de musique urbaine aussi, que je sais pas, quand on parle justement de toutes ces, au sens occidental du terme, j'entends, hein, quand on parle de ces musiques qui sont aussi influencées par des pays d'Afrique par exemple, etc. Donc je trouve que musique hip-hop, c'est intéressant parce que justement si on prend même des musiques nigérianes par exemple, comme l'afrobeat, l'afropop, c'est aussi des choses qui sont elles-mêmes influencées par le rap et le R&B américain. Donc c'est des boucles, en fait. Et le socle commun, c'est la culture hip-hop et la musique hip-hop.
Alors,
et les
ça, par contre, c'est étonnant et c'est intéressant. Tu peux nous dire aussi ce que tu en penses, Daz. C'est que là, c'est ramener aussi le hip-hop au centre du débat. Mm-hmm. Ce qui n'est pas forcément la tendance qu'on observe de manière générale.
Le hip-hop en tant que mouvement, tu veux dire?
Oui, c'est-à-dire que les rappeurs d'aujourd'hui font plus rarement quand même référence au hip-hop.
Non, jamais.
Voire jamais.
Jamais.
Et tu trouves ça quand même pertinent de le ramener au centre du débat en disant les musiques hip-hop?
Mais c'est pour ça que j'ai trouvé ce livre hyper intéressant, le discours qui est autour de ce livre-là, parce que oui, finalement, c'est le socle. Tout à l'heure, tu parlais de socle commun. Finalement, c'est ça. Si tu dépouilles tous les instrumentaux qui existent aujourd'hui sur lesquels des rappeurs, qu'importe leur sensibilité, interprètent, tu te rends compte que on en revient presque à ce truc de breakbeat qui existait aux origines du hip-hop, quoi. C'est-à-dire cette rythmique très en avant. Donc, je trouve ça intelligent et intéressant dans ce débat intellectuel qu'on peut avoir sur est-ce que ça existe encore, de parler de musique hip-hop au sens très large et donc au pluriel. Parce qu'effectivement, que ce soit des choses qui tirent vers l'afrobeat ou les musiques afro-caribéennes, que ce soit du rap pur, que ce soit du R&B, que ce soit du cloud, ce que tu veux, il y a ce truc de... Il y a une forme d'artificialité, même s'il existe des groupes de rap acoustique, les Roots, etc. Mais même dans leur manière, eux, de jouer, il y a aussi parfois cette volonté de vouloir sonner comme si ça sortait d'une machine ou d'un ordinateur, quoi.
Ouais.
Donc, je trouve ça intéressant, cette manière de présenter les choses. Je sais pas si ça va durer dans le temps ou ça va être que finalement une réflexion intellectuelle, universitaire, mais je trouve qu'elle est intéressante, en tout cas.
En tout cas, il faut la passer, il faut la transmettre,
ouais,
du temps, voir si les gens peuvent s'en emparer ou pas.
C'est l'occasion, et si vous avez l'occasion de, alors j'ai plus le titre exact en tête, cet ouvrage qui s'appelle, je crois que c'est 40 ans de musique hip-hop d'une certaine. Okay. Je suis désolé pour les auteurs d'ailleurs que je salue. Pour certains, c'est des gens que je connaissais, des amis, mais là je l'ai plus en tête là.
Si on se reconnecte un peu à l'origine du débat, on avait parlé de trap, on n'a pas illustré d'ailleurs avec des morceaux. Mm-hmm. Est-ce qu'on aurait, alors on va se limiter à la France, quelques jalons de la trappe, parce qu'on le disait quand même, plus grande révolution.
Caris.
Même en fait, un petit peu avant. Déjà, dès le milieu des années 2000, il y a des rappeurs qui sont branchés avec les États-Unis, qui comprennent qu'il se passe quelque chose. Je pense notamment à Booba. En 2006, donc après la sortie. Non, en 2007, si je sais plus, c'est vers ces eaux-là, 2006-2007. Il sort un morceau qui s'appelle Garcimore, et qui est un morceau complètement inspiré d'un rappeur, en tout cas musicalement, d'un rappeur américain qui s'appelle Young Jeezy, dans la manière de rapper, très lente. De toute façon, Booba, je pense qu'il a toujours apprécié ces rappeurs qui donnent pas l'impression de s'efforcer à rapper. Il y a jamais
il est dans l'effort minimum.
Il y a jamais ce truc de goût de, ouais, mais tu vois, même quand c'est, en fait, c'est la fausse impression que ça donne pas d'effort de faire.
C'est pas démonstratif.
Voilà. Tu vois, les gens qui donnent presque l'impression de parler alors qu'en vrai ils sont en rythme. Tu vois, par exemple Prodigy, ça, je pense que c'est quelqu'un qui l'a beaucoup influencé.
De Mobb Deep.
Young Jeezy aussi, ces derniers temps, dans une interview, il avait cité Young Dolph, père ouais. à son âme. Young Dolph, c'est quelqu'un, c'est pareil, t'as l'impression qu'il te parle, et en fait, non, c'est de la fausse impression, parce que c'est quand même technique dans la manière de le faire. Et donc voilà, donc tu sens sur ce morceau-là, même musicalement, tout à l'heure, je vous parlais de ce truc de musique de film d'horreur, effectivement, si on peut écouter un extrait de Garcimore, on va s'en rendre compte.
Et là, pour toi, c'est, on est dans la trappe déjà ? Et
là, on est complètement dans la trappe. Ça, c'est de la pure trappe musique, quoi, d'une série. Elle est okay. pas coupée, celle-là, quoi, c'est vraiment ça, quoi. Quand les cuivres synthétiques vont arriver, là, vous aurez l'impression d'être dedans, là.
Ah oui. C'est limite très basique comme trap, du coup.
Bah oui, mais...
Parce qu'on est habitué maintenant à des trucs
exactement.
Plus...
C'est Thérapie qui produisait à l'époque ?
C'était pas Thérapie. Alors là, c'est un collectif qui s'appelle Street Fabulous.
Okay.
C'est lequel de Street Fabulous ? C'est One Shot, je crois, qui produit ça dans Street Fabulous. Et donc oui, c'est un des morceaux importants. Il y a aussi Mac Tire à cette époque-là qui commence à comprendre qu'il se passe quelque chose, avec notamment un morceau qui s'appelle 9-3, tu peux pas test. La Fouine aussi qui va comprendre ça. En fait, tous ceux qui saisissent qu'il se passe quelque chose aux États-Unis autour de ce genre musical. Mmh. Mais effectivement, je pense que le point de bascule, c'est le début des années 2010, un album comme Lunatic de Booba, l'album La Fouine vs Laouni de La Fouine, le premier CD en tout cas. Et effectivement, il y a aussi un moment de bascule avec Or Noir de Caris,
ouais.
mais qui déjà a saisi qu'il se passait quelque chose avec La Drill de Chicago, qui est en fait le petit frère de la trappe d'Atlanta, d'une certaine manière, puisque tous ces artistes drill du début des années 2010 de Chicago sont influencés par Young Jeezy, Gucci Mane,
T.I. dans une certaine mesure.
T.I. c'est déjà, en fait, T.I. comme il a été
là avant, donc
il a été là avant, ça a été première rencontre, un énorme succès populaire, donc il fait déjà autre chose à ce moment-là. Je pense qu'il est un petit peu moins influent, et il y a surtout l'album Flocavelli de Waka Flocka Flame, qui sort en 2010, qui a relancé en fait certaines esthétiques trap très violentes, et ça a été très influent justement à Chicago notamment, et c'est pour ça que on le sent dans l'album Or Noir de Caris.
T'as une petite préférence sur Or Noir, un morceau que t'apprécies en particulier?
Je pense
Bazo.
Que Zo,
ouais. Bazo, voilà. Bazo. Ça, les trucs de clavecin à la con là, c'est aussi un truc que la France a embrassé violemment.
Ça, on a, c'est le ah merde, je vais retrouver le mot.
Moi, j'appelle ça le clavecin à la con, mais il y a un terme technique. Et ça, c'est Thérapie, du coup. C'est Caris, donc. Puis tu vois, le côté aussi des adlibs, des clips, tu vois, le syndrome de la tourette limite. tu vois, c'est trap, ça aussi. Là. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classe. Franchement, Caris. Je veux savoir ce que ça fait de prendre leur place. J'y repensais, hein, je m'entraîne à sourire devant la glace.
Devant la glace.
Ouais. Franchement. Ouais. Faut que je le réécoute, hein, parce que
tout le monde s'accorde à dire. Enfin, il met tout le monde d'accord, cet album.
Ouf.
Non, mais ça, c'est. Il y a un terme anglais qui a été réadopté en France. On appelle ça un game changer. C'est vraiment un point de bascule, quoi. Un point pivot dans l'histoire d'un genre musical. Flocavelli, dont je vous parlais justement aux États-Unis, a été important pour ça, de Waka Flocka Flame. Cet album-là était important pour la France, c'est certain.
Derrière ça, la trappe, tu le dis, elle se transforme petit à petit à travers des hybridations, etc. Est-ce qu'on peut considérer que la drill, justement, est une forme d'hybridation de la trappe ?
Complètement. En fait, ce qui se passe historiquement, c'est que je vous parlais de cet album Flocavelli, qui a une énorme influence sur la scène drill naissante de Chicago au début des années 2010.
Les Chief Keef et compagnie.
Voilà, en fait, Chief Keef, et surtout, quand on parle de, évidemment, là, de musique, on parle de producteurs, des gens comme DJ L, le producteur de Chief Keef, dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir, c'est honteux, là, que j'ai un trou de mémoire, c'est affreux, les gens,
ça arrive.
Merde, le producteur de Chief Keef au début. Oh là là, le trou de mémoire.
Je l'ai plus non plus.
Je vais taper en même temps que je vais écrire. Je vais essayer de faire ce truc. Bref, il y a des producteurs importants comme ça au moment de la scène naissante de Chicago, qui en fait réadaptent ces codes de la trappe de Lex Luger, donc sur l'album Flocavelli de Waka Flocka Flame. Et en fait, c'est ça. C'est effectivement une nouvelle manière de faire de la trappe, sauf qu'il y a une spécificité culturelle et sociale de Chicago. Là où la trappe, c'est une musique de la vente de drogue, l'adrénaline, la sensation des sommets que procure le fait de gagner cet argent rapidement et parfois de le perdre aussi rapidement et tous les dangers qu'il peut y avoir autour. À Chicago, c'est funeste, hein, et malheureusement.
Oui, c'est une zone de guerre, hein, Chicago.
Voilà, Chicago, à ce moment-là, c'est la ville où il y a le plus grand taux d'homicides aux États-Unis. pour des histoires de guerre de terrain, en fait, justement. C'est lié aussi au trafic de drogue, notamment. Mais c'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus lié sur la mort. Et d'ailleurs, beaucoup de rappeurs drill de cette époque-là, que ce soit Lil Herb, Lil Durk, Chief Keef, ils parlent beaucoup de ça, finalement. Mmh. Et à quel point il y a ce trauma de voir la mort partout autour d'eux, et à quel point d'une minute à l'autre eux aussi peuvent mourir. Il y a beaucoup ça, et notamment chez quelqu'un comme Lil Herb qui va devenir J Herbo, il y a vraiment ce truc de survivalisme, quoi. Et il porte avec lui, et c'est encore jusqu'à aujourd'hui, hein, il porte avec lui des fantômes du passé, les fantômes de proches, les fantômes de gens. Alors, on ne sait pas si c'est lui ou si des gens proches de lui qui ont pu être tués. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. C'est vraiment, on a l'impression que c'est des gueules cassées, des tranchées de la Première Guerre mondiale, quoi.
Et donc, ce courant, il est ensuite repris en France, mm-hmm. dans la lignée de la trappe, de la drill, en passant aussi un peu par l'Angleterre, si je dis
pas
de bêtises.
Alors, exactement.
Comment ça se fait?
Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a un morceau de Lil Herb, en l'occurrence, à l'époque, qui s'appelle Kill Shit, et qui a cette spécificité rythmique du... Okay. Qui est en fait une certaine manière d'adapter ce qu'avait fait Lex Luger sur Flo Cavelli, justement. Et cette spécificité rythmique, qui est pas entièrement partagée par tous les morceaux drill de l'époque, en tout cas sur certains morceaux, eh ben elle va avoir une influence, c'est un peu un effet papillon, en fait. Elle va avoir une influence sur une scène londonienne naissante, mm-hmm. de drill, parce qu'il y a aussi des réalités socio-démographiques, économiques en Angleterre, avec justement aussi ces problèmes d'homicide, de violence, etc. dans certains quartiers. Et ça va devenir un peu la bande-son de ces bandes-là. Et ils vont reprendre en fait ce code esthétique. Il y a des producteurs anglais, en plus avec leur héritage de la grime, etc. Donc ils vont reprendre certaines choses. Et ils vont adapter effectivement ce truc rythmique. Je me suis toujours demandé, j'aimerais bien voir un jour une interview ou un truc de fond là-dessus, si en plus, comme ce sont des jeunes qui viennent pour beaucoup justement des anciennes colonies britanniques afro-caribéennes,
Jamaïque et tout ça, ouais.
Voilà, exactement, donc de certaines îles caribéennes et aussi du Nigeria par exemple, si cette chaloupe, ce c'est des choses qu'on retrouve, tu vois, finalement, mmh. dans le zouk ou dans certaines, justement, musiques africaines. Si finalement, ça n'a pas eu une espèce de résonance aussi chez eux, si ça n'a pas eu une influence et une manière pour eux d'adapter ça. Et ces producteurs-là, ils vont être appelés par une scène drill naissante à New York, notamment par Pop Smoke, qui va poser sur des prods, en fait, qui sont faits par des Anglais. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette drill britannico-new-yorkaise, elle a été aussi influente parce qu'il y a eu Pop Smoke aussi. En fait, encore une fois, c'est une question d'alignement, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un mec qui devient une star, qui arrive à faire des tubes, des trucs accessibles avec cette musique qui est, encore une fois, qui est funeste au départ, qui peut être festive mais qui est funeste.
Et underground.
Et oui, au début, c'est underground parce que avant Pop Smoke, cette drill new-yorkaise, elle, c'est une scène de niche, en gros. Il y a des mecs de talent, hein, Chef G, il y a vraiment plein de mecs qui sont talentueux dans cette scène-là. Mais c'est Pop Smoke qui a d'un seul coup arrivé à faire des tubes, quoi. Welcome to the party, Dior, etc. Donc il y a vraiment ce truc où il arrive à faire des tubes avec ça. Il a sa voix, il a cette espèce de rapprochement parfois avec 50 Cent aussi, rien qu'à la tronche, mais aussi dans certaines mélodies qu'il peut avoir. Et donc, bah, ça a une résonance jusqu'en France où, effectivement, c'était au moment du confinement, d'un seul coup, peut-être parce que le rap français cherchait ce nouveau truc aussi, et bah, ça prend comme une traînée de poudre jusqu'à aujourd'hui. Je pense que sur tous les albums de rap français, il y a des rythmiques drill. Alors, c'est plus de la drill, c'est un peu comme la trappe finalement.
Ouais,
c'est plus de la drill.
Ça a changé un peu.
Voilà. Aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir, je crois qu'à un moment, ils appelaient ça la drill no drill. C'est-à-dire que ces rythmiques-là, mais tu vas avoir des petites guitares dessus, tu vas avoir des petites voix lointaines qui peuvent être samplées dans le R&B, etc. T'as plus ce truc sombre, funeste, ce truc un peu hérité de la musique de film d'horreur que t'avais dans la trappe, quoi. Okay. Mais en tout cas, cette rythmique typique de la trappe, de la drill, pardon, de la même manière que cette rythmique typique de la trappe, cette rythmique typique du rap des années 90, bah, elle perdure jusqu'à encore aujourd'hui où on peut entendre ce forme de motif rythmique dans des albums.
Est-ce qu'on a quelques exemples sonores qu'on pourrait diffuser pour illustrer la drill?
Ouais, en fait, il y en a tellement qu'il n'y en a pas un évident qui m'arrive en tête.
Il y en a pas qui sort du lot.
Tu prends le morceau Drill FR4 de Gazo, Gazo et Freeze Corleone, par exemple.
Voilà.
Eh ben, écoute,
c'est écrit dessus.
C'est écrit dessus.
équipe. Tu vois, syndrome de la Tourette. Allez. J'aime beaucoup Chris Corleone pour ça.
Faudra qu'on en parle de Chris Corleone.
Voilà.
Les bonbons sont remplis de cocaïne. Flex. Dakadine en guise de protéines.
Tu vois, avec la 808 élastique derrière.
Voilà, la 808 élastique est complètement héritée. Justement, donc là, le producteur, c'est Flemme, qui est un mec extrêmement talentueux, mais qui est effectivement hérité de ce truc de la drill anglaise, popularisé ensuite par Pop Smoke et qui revient en Europe via le succès de Pop Smoke, quoi. Donc,
parce que les 808 de la drill sont différentes des 808 de la trap.
En fait, dans la trap.
Sur les glides, c'est sur quoi?
En fait, c'est les glides, exactement. Ouais. Les glides, ça a commencé à apparaître.
C'est-à-dire les glissements entre les notes.
Exactement, exactement. Ce qui donne cette impression de
rebond.
Du coup, ça monte, ça redescend, ce truc très élastique. Ça a été déjà très important dans la trap à partir des années 2015. Je pense que c'est notamment via des producteurs comme Southside, qui bossent avec un rappeur qui s'appelle Future à Atlanta, qui produisent ensemble au milieu des années 2010 une trap très, de plus en plus psychédélique d'une certaine manière, avec des textures très bizarres. On a presque l'impression de passer dans l'hyperespace par moments, c'est très bizarre. Et il y a ce truc des basses glidées, mais ça va être vraiment encore plus popularisé parce que très mis en avant par la drill.
Ok.
Et si on écoute, alors par exemple, si je peux me permettre,
bien sûr,
si on écoute un morceau comme Memoria de Jazzy Baz, vous allez voir que c'est typiquement une rythmique drill, mais qu'on n'est plus du tout sur les mêmes accords, sur les mêmes motifs musicaux.
Jazzy Baz est plutôt un artiste boom bap, tu vois.
À la base, oui.
Ouais.
Allez, à la base. Écoute ça. Memoria Jazzy Baz.
Ouais, les ayats dont Raphaël parlait, tu vois. Mmh. Au fil de la nuit.
Oui, on a presque quelque chose de jazzy, les grands accords de piano très célestes, le saxo qu'on entend, voilà.
Et en même temps, on a la rythmique, effectivement.
Et on a la rythmique. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec, encore une fois, cette diffusion et cette manière de se réapproprier des codes musicaux qui montrent une forme de créativité. Après, je pense qu'il y a des puristes de la drill qui devaient être vent debout en entendant ce genre de choses, ce qui peut se comprendre.
Mais à l'inverse, il y a aussi des gens qui n'étaient pas spécialement trap ou drill, mm-hmm. là je m'inclus dedans, mm-hmm. qui du coup rentrent par ce type de morceau, parce que justement il y a une sonorité un peu plus jazz avec des rythmiques drill, et qui du coup après peuvent diguer et se retrouver à écouter de la pure drill 100%.
Exactement.
Et peut-être qu'ils y seraient pas venus s'il y avait pas eu cette porte d'entrée.
Ouais, donc en fait, ça permet, musical classique, t'as besoin de porte d'entrée.
Ouais, exactement. Ouais, exactement.
Le producteur du Chief Keef, c'est Young Chop. C'était important que je le dise.
Okay.
C'est Young Chop. Ça aurait dû être évident, mais c'est le matin. Là, ça me revenait plus. Voilà, Young Chop.
Alors, si on récapitule un petit peu, on était parti un peu de la question des esthétiques sonores dans le rap français qui se sont démarquées ces derniers temps, pour avoir une idée un peu de l'état actuel donc du rap. On a dit évidemment la grande révolution, c'est la trap, qui s'hybride, qui se mélange. On a cité Cloud, on a cité la drill.
L'afro-trap aussi, toutes les influences afro-caribéennes.
Est-ce que, oui, bah ça d'ailleurs, on peut, parce qu'on n'a pas mis d'extrait, peut-être pour respecter tout le monde, on peut mettre du MHD,
je pense que afro-trap.
Est-ce que t'as un morceau d'MHD que t'aimes bien?
Afro-trap 157.
Peut-être le 3, afro-trap 3.
Allez, Champions League.
Bah oui, voilà, Champions League, évidemment, c'est le 3.
Allez.
C'est très dépouillé musicalement, il n'y a quasiment rien de mélodique.
Ouais.
C'est vraiment ce truc.
C'est la rythmique pure.
Viscéral, hein. Quoi.
Allez.
Et là, on va arriver au reggaeton dont on parlait quelques émissions. Hein.
Et. Alors, je te coupe peut-être l'herbe sous le pied,
vas-y.
Je me permets.
Vas-y.
Il y a évidemment, il faut en parler. On a aussi un truc très spécifique au rap français qui est arrivé depuis 2013-2014. Qui a été presque. Il a presque porté à lui tout seul un genre musical, c'est Jules.
Ouais.
Jules, parce qu'il est peut-être loin de Paris. On est dans un pays centralisé en France, jacobin, pour reprendre encore un terme intellectuel et historique, géographique. Le bon goût, c'est dicté par Paris. Donc, le bon goût, au milieu, enfin, sur la première moitié des années 2010, c'est soit effectivement la trappe, popularisée par Caris et par Booba, par bien d'autres. C'est une forme de revival boom-bap avec l'arrivée de l'entourage, 1995, tous ces rappeurs-là, qui arrivent à... Alors au début, il y a peut-être une forme de mimétisme, mais qui arrive au fur et à mesure à personnaliser ça, à en faire quelque chose de singulier aussi. Mais il n'y a pas que ça en France. Et on est dans un pays qui est nourri par plein d'influences régionales, en plus d'être international. Et effectivement, Jules, il arrive...
À Marseille, du coup.
Il vient de Marseille et il a une musique qui ne ressemble à vraiment, pour le coup, personne d'autre en France à ce moment-là. Jules, c'est un enfant du rap marseillais du début des années 2000. Le rap marseillais du début des années 2000, de l'AFF, Carré Rouge, les Psychiatres de la Rime aussi d'une certaine manière. C'est des rythmiques très élevées parce que très influencées par la funk ou la musique des années 80. Ça s'entend sur les albums Art de Rue, l'album Art de Rue de l'AFF par exemple. Donc il est déjà influencé par ça. Parce qu'on est à une époque où il y a, et j'aimerais bien un jour qu'il y ait une vraie étude de fond universitaire ou journalistique là-dessus, l'importance qu'ont pris les chichas en France.
Ouais.
Je vais vous dire un truc très bête. Et j'avais lu une fois un article qui était intéressant, je me demande si c'était pas chez Street Press. C'est que, pendant longtemps, les populations racisées, pour prendre un terme savant, les populations racisées, originaires d'Afrique ou d'Afrique du Nord, avaient plus accès aux boîtes de nuit. C'est une réalité. Il y a un problème en France pour aller s'amuser.
Oh oui.
Il y a
soirées de banlieue, on connaît.
Il y a une forme de discrimination. Et ces espaces, les chichas, donc ou un endroit où on fume le narguilé, etc. C'est devenu un système parallèle pour pouvoir faire la fête collectivement, comme les boîtes l'ont été. Je me demande s'il n'y a pas un point de bascule, peut-être à la fin des années 2000. Vous savez, c'est la mode de la technonique, de la musique électronique très populaire, très criarde redevient la mode. Je me demande s'il n'y a pas un point de bascule où justement il y a une fracture culturelle d'une certaine manière, parce que même s'il y a des rappeurs qui ont essayé de surfer sur cette vague-là, etc., notamment aux États-Unis, je pense que c'est pas une musique qui est écoutée justement par ces populations racisées, justement, qui sont plutôt proches du rap ou des musiques afro-caribéennes. Et donc tout ça, c'est de l'intuition, ce que je donne. Hein. Encore une fois, j'aimerais bien qu'il y ait une étude de fond là-dessus. Et donc, les chichas, ça devient un lieu de fête collective, justement, sur toutes ces musiques-là, le rap, les musiques afro-caribéennes, le R&B, etc. Et je pense sincèrement que quelqu'un comme Jul et plein d'artistes qui vont suivre après lui, il est le fruit de ça aussi. C'est-à-dire que c'est des endroits où on peut écouter du rap, où on peut écouter du reggaeton, où on peut écouter des musiques d'Afrique du Nord, du raï, etc. Et en fait, il mélange tout ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui a eu aucune, entre guillemets, honte de se dire, mais en fait, la musique que moi j'écoute, la musique que les gens autour de moi écoutent, ce sont ces musiques-là. Et j'ai envie de faire cette musique-là.
C'est une synthèse.
Ouais. C'est une hybridation.
Du rap de chicha. Et voilà, on est dedans.
En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'il y a un circuit préférentiel pour la prestation live dans le rap, du showcase en chicha, etc.
Et à ce moment-là, c'est très important, précisément parce que, on va peut-être y venir un petit peu sur l'aspect économique. Le rap français à ce moment-là vend peu, parce qu'on est encore dans la crise du disque, au début des années 2010, avec le piratage, tout ce qu'on a connu justement qui a amené cette crise du disque économique. Le rap est particulièrement touché parce que c'est une musique jeune. Quand t'as 15 ans, t'as pas envie d'acheter tous les mois 3 CD, 4 CD à 15 euros. Bah non, en fait. Il y a une accessibilité gratuite à la musique de manière piratée, tu le fais. Donc le rap français vend peu et c'est un cercle vicieux. Si tu vends peu, c'est difficile à faire valoir ta possibilité de vendre des places de concert. Donc tu fais très peu de live, etc. T'as pas accès à des boîtes de nuit nécessairement aussi, comme les DJ par exemple. Encore une fois, la musique électronique, comme les DJ, pour pouvoir faire des prestations pour lesquelles t'es rémunéré. Je pense que la chicha, c'est devenu
un circuit parallèle, quoi.
C'est devenu un espace où tu peux faire des prestations live, être rémunéré, gagner ta vie, justement. Il y a un cas d'école intéressant. Je pense que quelqu'un comme l'Algérino, par exemple, à Marseille. C'est un rappeur qui grandit dans le sérail de La Cosca, donc ce label créé par Akhenaton à la fin des années 90. Il est signé, alors je ne sais plus si c'est sur La Cosca même ou sur en tout cas un autre label signé par ce système-là, qui fait du rap pur et dur, du rap street, on va dire, dans les années 2000, et qui au fur et à mesure va faire de plus en plus un rap festif très infusé de la musique d'Afrique du Nord. Et réussir en fait à avoir une carrière comme ça, une carrière parallèle. Genre, moi j'ai été frappé une fois, alors je fais un excusez-moi, je digresse, mais j'ai été stagiaire chez Trace, donc dans mon parcours professionnel chez Trace Urban, c'était en 2011. C'était clairement pas une musique que moi j'écoutais, parce que j'étais beaucoup plus branché rap pur et dur d'une certaine manière, mais il s'avère qu'on était partenaire d'un concert qui faisait de mémoire au Divan du Monde à Paris. Et j'ai été frappé du fait qu'il a fait sale comble, alors que, en fait, dans ma tête, il n'existait pas. Plus, en fait.
Tu parles de l'Algérino.
De l'Algérino, c'est ouais. Ça. Et en fait, il fait sale comble en faisant justement cette musique matinée de plein d'influences raï ou de musique arabe, d'une certaine manière, en faisant du rap. Et vraiment, il fait sale comble, il y a une ferveur, etc. Et c'est là que je pense que j'ai compris qu'il y avait autre chose qui jouait, justement, sur ce système parallèle dont on parlait. Et qui explique, finalement... les bases du succès qu'il va avoir plus tard, au moment où la Zumba,
la Zumba.
Ce fameux mot que je n'aime pas moi, se popularise.
Personne n'aime en fait, hein, ouais, c'est marrant.
Se popularise parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faisait depuis des années et qui lui a permis en fait de singulariser sa propre esthétique et d'avoir un public fidèle pour ça, quoi.
Est-ce que ce soit Jul, que ce soit l'Algérino, est-ce qu'ils s'inscrivent dans une scène ou est-ce qu'ils ont vraiment une identité qui leur est propre et on ne peut pas les mettre dans un tout, dans
Je pense qu'il y a quelque chose de très marseillais au départ. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très marseillais au départ avec ces artistes-là. Mais il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un producteur dans BPM, justement, le podcast que j'anime pour Bouscapé, avec un producteur qui est de Bordeaux, qui s'appelle Noxious, et qui m'a dit, mais en fait, moi, en étant de Bordeaux, peut-être parce qu'on est, entre guillemets, loin de Paris, mais surtout dans le sud, pour nous, en fait, c'est même pas de la Zumba. C'est une musique de fête, c'est une musique de boîte. Et en fait, c'est, pour moi, c'est naturel de pouvoir en faire parce que c'est aussi des trucs que j'écoute dans mon quotidien. Donc, je pense qu'il y a, et parce que, encore une fois, on revient à ce truc de pays où il y a Paris qui dicte le bon goût. Il y a un peu ce truc de, ah, c'est pas de la bonne musique, c'est de la musique de chicha, c'est de la musique de Zumba, avec un peu en plus ce mépris de classe, voire ce mépris de race aussi, d'une forme de racisme, où effectivement il y a ce truc de bof, c'est pas pour nous.
C'est
quoi,
la musique
vois.
Du Sud, quoi.
C'est la musique du Sud. En plus, tu vois, cette image, j'imagine, tu vois, dans la tête de certaines personnes,
beau, machin,
les kékés, tu vois, les trucs, les machins, bref. Et en fait, il dit, bah non, nous, en fait, pour moi, c'est même pas la Zumba, c'est juste la musique que j'entends dans mon quotidien, c'est de la musique de club. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ces codes esthétiques qui vont être popularisés par Jul ou des artistes comme l'Algérino, etc., ça continue à se diffuser dans le Sud. Et aujourd'hui, des artistes qui, pendant longtemps, étaient des artistes, alors, j'aime pas ce mot-là, mais vous comprendrez ce truc un peu de niche, ou en tout cas qui avait une forme de plafond de verre en termes de succès populaire. Je pense à des gens comme Némir, comme Gros Mot, qui viennent de Perpignan, qui se sont fait connaître au départ avec une formule rap.
Académique.
Académique, tu vois, même s'ils avaient.
Ils avaient leur truc, mais.
Ils avaient leur truc, voilà, mais en tout cas, tu sens ces références rap américain, rap français des années 90-2000. Et ben, ils ont commencé aussi à matiner à leur manière à eux, peut-être aussi parce qu'ils sont Perpignan, que c'est pas la même réalité socioculturelle de Marseille exactement. Perpignan, grosse communauté gitane, par exemple, etc. Donc, c'est aussi d'autres influences, peut-être, qu'à Marseille. Marseille, il y a l'importance de la musique des Comores. Par exemple, Jul, un de ses derniers singles, s'est influencé par un morceau d'un tube comorien.
Grande communauté à Marseille.
Voilà, exactement. Donc, je pense qu'il y a aussi une autre réalité socio-culturelle dans laquelle ils ont évolué. Et par exemple, ces artistes-là, on sent qu'il y a de plus en plus d'inflexion de ces musique là dans leur propre musique, quoi. Donc c'est intéressant de voir que ce truc était très mal considéré, quand il peut être bien adapté, personnalisé, singularisé, bah il peut faire aussi des choses intéressantes et qui sont pas de la simple copie pour surfer sur la vague du succès de Jul, quoi, d'une certaine manière.
Mais d'un autre côté, c'est vrai que du Jul en région parisienne, non, il y en a pas.
De plus en plus, quelqu'un comme Timal par exemple, qui au départ fait un rap, une sorte de trap française, tu vois, un peu, alors je vais dire simple, c'est pas lui faire honneur en disant ça, mais quelque chose qui est
basique en tout cas.
Quelque chose d'assez basique, quoi, quelque chose qui reprend plein de codes qu'on entend dans
standard,
le français.
En tout cas,
voilà, exactement.
Ouais.
C'est un des premiers, par exemple, à faire ça. Alors peut-être parce que c'est quelqu'un d'origine des Caraïbes, tu vois aussi, et que il a cette sensibilité, tu vois, pour ce type de rythmique, tu vois, justement caribéenne. Bah, il en a fait depuis 2018, tu vois, finalement. L'année dernière, Gazo et Timal, justement. Gazo, qui est justement, lui, pour le coup, francilien, et donc on écoutait un morceau drill. Il a fait un morceau filtré, par exemple, où c'est ça, en fait. C'est clairement des choses qui reprennent les codes popularisés par Jul, quoi.
Est-ce qu'on peut dire, parce que tu as évoqué la musique de club, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit aussi, parce que là, on est un peu une forme de rétrospective, quand même, en tout cas, on regarde quelques années en arrière. Aujourd'hui, la musique de club dans le rap, elle a pris une importance extrêmement importante. Elle se mélange, etc. L'un des derniers exemples en date, c'est la Jersey Drill, évidemment. Est-ce que, d'une certaine manière, il faut qu'on s'écoute des extraits, hein, de Jul, etc. Mais c'est aussi, sans en faire une scène, une des grandes évolutions récentes du rap, c'est d'intégrer la musique club complètement.
Je dirais du rap français. Parce qu'au final, aux États-Unis, le fait dans le rap de faire de la musique club, oui. Après, c'est parce qu'encore une fois, c'est lié aussi au mode de consommation et aux possibilités économiques, je pense. aux États-Unis, il y avait déjà un circuit de boîtes de nuit où c'était possible de passer du rap, de faire la fête et d'avoir justement ces club anthems qu'adore tant le rap américain depuis dans tous les genres confondus du rap américain.
Cameron et compagnie.
Bien sûr, la grande époque de la fin du rap new-yorkais de la fin des années 90, début des années 2000, ils l'ont tous fait. Jay-Z, DMX, Cameron, Maze, enfin
Fabulous.
Ils l'ont tous fait, tu vois. Dans le rap californien aussi. Au sud des États-Unis, il y a aussi l'importance culturelle des strip clubs. Mmh. Les strip clubs aux États-Unis, c'est l'endroit où, si t'as un morceau qui déchire et si t'as la stripteaseuse populaire du moment, tu glisses ça au DJ ou t'en parles à la stripteaseuse, son management, etc. Tu peux commencer à faire décoller un tube grâce à ça. Mmh. Il y a même des artistes, quelqu'un comme Mike Jones, par exemple, ouais, à Houston, qui n'est pas un grand rappeur techniquement, lyricalement, tout ce que tu veux par rapport à d'autres artistes de cette scène-là, mais qui a réussi à populariser sa musique parce qu'il avait compris cet écosystème-là. En France, effectivement, ça a été différent. Mm-hmm. Parce que, et on en revient à ce que je disais, encore une fois, là, ça tient plus de l'intuition, mais je pense que c'est quelque chose que vous comprenez quand je dis que ça a été compliqué pour les personnes racisées en France à cause d'un mépris de classe et de race de pouvoir entrer dans ces
dans
les boîtes. Voilà.
Tout simplement.
Une fois, j'ai interviewé un producteur, c'est marrant, qui s'appelait Technique, il faisait partie d'un collectif qui s'appelait Funky Maestro. Funky Maestro, c'est DJ Posca, notamment la figure publique de ce collectif. Ils ont une émission sur Génération, ils ont fait des mixtapes, ils ont fait plein de choses. En fait, ils participent à une compilation de la marque Homecore qui sort en 99 ou 2000. Et je pense que ça a dû arriver à tellement d'artistes. La soirée de lancement, c'était au bain-douche.
Ils sont pas rentrés.
Il fait, il y a ma musique à l'intérieur, c'est moi qui produis quasiment tout et je peux pas rentrer. Technique, en plus, après, je pense qu'il y a peut-être aussi une question de look ou d'apparence. Technique, c'est un mec d'origine portugaise, c'est un blanc, tu vois. Donc, je pense que c'est pour ça que je parle aussi de mépris de classe. Ouais. Donc, je pense que pendant très longtemps, ça a été compliqué pour le rap en français d'exister en boîte.
Mais d'ailleurs, les Français qui allaient aux États-Unis, mm-hmm. ils étaient ouf de se dire putain, on peut rentrer en club. Mm-hmm. En jean et basket,
ouais,
en
c'est
fait,
ça, tu en Timberland, ouais. Tout ce que tu veux, quoi.
Parce que en France, c'était impossible, voilà. En fait. Il fallait que tu t'habilles bien, tu vois.
Donc, ça a été compliqué. Je pense que une des grandes révolutions, effectivement, pour le rap français dans les années 2010, c'est ça, c'est que d'un seul coup, le rap français est accepté dans ce milieu de la nuit, aussi par les chemins de traverse dont on parlait tout à l'heure, de ce système parallèle qui a légitimé, qui a montré que, en fait, le rap français faisait des tubes, le rap français faisait danser. Et effectivement, ça, c'est un truc très nouveau ces dernières années, ouais.
Est-ce qu'on peut s'écouter quelques exemples? On peut partir de Jul, on peut prendre des trucs un peu plus d'inspiration afro-caribéenne, des trucs très récents aussi.
Je pense que le plus gros tube, et ça a été prouvé en termes de bande organisée, tu vois. Prends bande organisée, ça a été un tube pendant 10, 11, 12 semaines, numéro 1 en France.
Et qui est efficace dans absolument toutes les soirées, avec n'importe qui quasiment, ça marche.
Moi, ça me fait mal au cœur quand même, mais
franchement, il est bien ce morceau.
Surtout quand il s'arrête en fait.
Ça donne pas envie de bouger ça, putain.
Mais si, mais de bouger de l'endroit.
Non,
c'est mon côté connard. Hein. Je l'assume. Hein.
Donc ouais, je pense que bande organisée, ça symbolise ça à la secoue. Alors il y a plein d'autres choses autour de bande organisée. C'est-à-dire que c'est une célébration, une union de toute la scène marseillaise, de toutes les sensibilités. À un tenté justement donc en 2020, c'est aussi une célébration de Jul qui est devenu central et fédérateur. Enfin, il y a plein de choses.
Qui laisse la porte ouverte aussi, qui fait croquer tout le monde.
Et qui en plus fait le pont avec d'autres générations du rap marseillais. Mmh. Ce qui, en fait, tu te dis sur le même album, t'as ce type de rap là, mais t'as aussi la présence de membres d'IAM par exemple.
Ouais,
sur un morceau, le dernier morceau de l'album Marseille, je ne sais plus comment il s'appelle.
Avec Akhenaten dessus.
Qui reprend en fait Marseille la nuit et qui le fait très bien. En fait, d'un seul coup, il y a un pont, et en plus de ça, ce morceau, mais d'un seul coup, c'est une forme de légitimation encore plus importante, populaire, de ce style qu'a popularisé Jul, en fait. Et je pense que c'est le morceau, peut-être dans 20-30 ans, on en parlera encore, en fait, quand on parlera de cette époque et de ce style-là, quoi.
Et est-ce que ça marque pas aussi, bande organisée, d'une certaine manière, l'avènement de Jul, dans le sens où, justement, le mépris auquel il s'est confronté, il a tendance quand même à s'effacer avec le temps, y compris, d'ailleurs, parce qu'il y a une forme de mépris au sein même du rap, aussi.
Bien sûr, absolument. Ah oui, non, mais totalement.
Bah de ouf. Hein.
Je pense que parce que il y a encore une fois, il y a ce truc, ce mépris dont tu parles. Je pense que c'est aussi très parisiano-centré ou Île-de-France centré.
En tout cas, parce que à un moment donné, il y a eu le clivage Est-Ouest aux États-Unis, et je sais que des gens ont essayé de faire un clivage Nord-Sud en France, et ça n'a pas marché.
Non.
Ça n'a pas marché parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de proximité entre les Parisiens et les Marseillais.
Bien sûr.
Que
la musique d'NTM et d'IAM, il y a quelques. Je dirais, il y a quelques trucs différents dans l'approche peut-être textuelle ou presque parfois philosophique, mais le son.
Mais Marseille a toujours toujours été vu comme une terre d'accueil. C'est-à-dire que pour un rappeur parisien, tu vois, tu parles d'IAM, Kéops avec Sad Hill,
bien sûr,
qui invite les X-Men, qui invite tout.
La Funky Family, enfin voilà. Tu vois,
il y a la Funky Family qui rappait avec Arsenic, avec des rappeurs de franciliens. En fait, il y a toujours eu ces échanges. Il y a jamais toujours eu de vrai clivage. Genre, on est ennemis, tu vois, comme on a pu voir entre New York et Los Angeles au plus gros de la guerre. Quoi.
Esthétiquement, c'est quasiment la même chose. C'est des gens qui sont influencés par le rap new-yorkais, en fait. Tous, tu vois. Le rap californien, à part quelques artistes qui ont réussi à très bien le réadapter en France, ça n'a jamais pris à grande ampleur, ce qui a très bien fonctionné en France dans les années 90, notamment au moment du premier âge d'or. C'est Mobb Deep, Wu-Tang, Bootcamp, enfin tu vois, ils ont tous été influencés par ces artistes-là.
Bien sûr.
Et en fait, c'est des codes communs, finalement. Donc, il n'y a jamais eu de fracture esthétique. Pour moi, la vraie fracture esthétique nord-sud, à la limite, c'est effectivement là, avec Jul.
Ouais.
Avec Jul. Et effectivement, je pense que...
Mais c'est une fracture esthétique qui reste accueillante, tu vois, c'est-à-dire qu'il ferme pas la porte, en fait.
Non,
c'est ça
pas
qui est,
du tout.
C'est
surtout grâce à un classico organisé.
Voilà. Et je pense qu'encore une fois, cette fracture, elle vient de cette dictature du bon goût parisien. On peut ne pas aimer. Moi, quand Jul arrive, j'aime
pas. Oh oui, moi, je suis pas fan, hein, mais.
J'aime pas tout ce qu'il fait. Il y a des morceaux que je trouve réussis, qui attirent mon oreille et ma curiosité, parce que ils s'inscrivent dans cette. Parce que j'aime beaucoup cette période du rap marseillais, encore une fois, ce début des années 2000. Et je me dis, ah, ok, je comprends où il veut en venir, je comprends d'où il vient, et j'aime bien la manière dont il le fait. Quand il fait des trucs du genre Chiquita, etc., ça me parle moins parce que c'est un peu du tube grossier pour moi. Ouais. Quand je dis grossier, c'est pas faire honneur à Jul, parce que je remets pas en cause peut-être la sincérité qu'il a derrière ce truc-là.
Ah, je pense que le mec est absolument sincère, mais c'est juste qu'effectivement, ça parle pas.
Ça me parle pas, tu vois.
Ouais.
Et par contre, quand il fait encore une fois des trucs très codifiés rap marseillais des années 2000, vraiment, j'adore le truc. Et encore une fois, je pense que c'est ça. C'est comme tu dis, il y a un truc très ouvert. Et Jul, il s'est jamais caché d'écouter des mecs justement de Paris, etc. Je pense qu'encore une fois, il y a un rejet d'une certaine intelligentsia,
ouais,
ou même de gens qui aiment un style de rap. Tu vois, je pense que les gens qui se butent à la trappe, ils peuvent pas supporter Jul au moment où Jul arrive, tu vois.
Ouais.
Donc ouais, et puis je pense que en plus dans la musique de Jul, il y a ce truc très simple de mec de quartier, tu vois, et que ça parle à beaucoup
tout le monde,
de gens, ça peut parler à beaucoup de gens en France.
C'est transposable, en fait.
Voilà, une fois que tu dépasses le truc esthétique, tu vois. Et en plus, bah, c'est quelqu'un qui adore le rap français. Donc, sur un de ses derniers albums, qui s'appelle Indépendant, où il laisse un peu de côté la production, où il s'ouvre à d'autres personnes, il va rapper sur des trucs boom bap, millésimé rap français. Je pense à un producteur comme Messa, que j'aime beaucoup, un mec qui vient de Lille, qui a fait plein de placements ces dernières années. Bah, c'est lui qui produit le premier single de Classico Organisé, notamment Loi de la Cahier. Si on peut écouter un extrait, ça vous donnera un exemple de... C'est un morceau d'une compilation pilotée par Jul, et pour autant, c'est un truc très boom bap, rap français, traditionnel d'une certaine manière. Quoi.
Loi de la Cahier, Classico Organisé.
Ah, toujours la Spanish guitare.
Voilà. Ouais. Et ses violons, tu vois. Ouais. Ce sample, là on a du sample. On n'est pas sur la composition sommaire, d'une certaine manière, des prods de Jul, quoi.
J'ai que la musique, c'est comme la drogue. Tout ça, ça dure 15 temps. À chaque contrat, je la prends 3 minutes.
Voilà. Ouais.
J'ai pas 20 ans, ça fait longtemps.
Ça pourrait sortir d'un album
là, en 2001.
À la fin des années 90, début des années 2000, ce serait pas surprenant. Donc Jul, en plus, il a ce truc-là. Je pense qu'il est attaché à une forme d'histoire du rap français. Et encore une fois, ça s'est vu sur Bande Organisée, avec ses ponts faits avec IAM, avec les mecs de la FF, même avec des gens qui sont pas assez reconnus au-delà de Marseille. Je pense à, encore une fois, des groupes comme Carré Rouge, Puissance Norme, et qui ont une grande importance localement. Donc oui, il y a un truc très accueillant finalement aussi dans la philosophie qui soutient la musique de Jul, quoi, d'une certaine manière.
Est-ce qu'on peut illustrer avec d'autres artistes ce côté musique club qui a vraiment popé à fond dans le rap ces dernières années?
Je pense que Niska, il doit voir. Tu vois, Niska, c'est typiquement un artiste qui, au début, fait de la trap
classique,
bien brutale, tu vois. Oh, tiens, tu peux mettre un morceau qui s'appelle Bâtard ont couru. BOC de Niska.
BOC, Niska.
Je pense que c'est un morceau intéressant, BOC.
Allez.
Que du sale, que du sale, que du sale.
Ah là, oui.
Charo, c'est Charo. Tu cours, tu cours.
La cité, la cité.
Mais pourquoi vous courez? Mon gavot des gavots, gavot des gavots. 24 sur 24, ça contre des plafonds. Et c'est ces charros, mes négros sont bavons. Moi dans le bendo, j'ai le diplôme du brave. Je suis dans la salle, j'ai mes bravos.
On est en quelle année là à peu près?
Là on est en 2017, ça c'est sur son album Commando. Et ce qui est intéressant, c'est que là il garde ces mêmes cadences, ces mêmes intonations, inflexions, trap. Mais ça, si on a un truc où on sent les influences afro, mais le kick, t'as bah, presque l'impression que c'est de la musique électronique. Donc, il y a vraiment.
C'est l'album de Niska qui l'a fait exploser.
Oui, complètement. Oui, bah, c'est celui où il y a Réseau, où il y a ce genre de tube-là, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, un morceau comme Réseau, c'est aussi représentatif de le rap français arrive à faire des tubes club, mais en continuant à faire par exemple de la trappe, quoi. Alors c'est de la trappe accessible.
Un réseau, c'est Pouloulou, hein, pour les gens
voilà,
qui.
C'est ça. Avec cet art de la top line, donc ces trucs importants qui arrivent dans le rap français, c'est cette ligne mélodique entêtante qu'on essaye d'avoir dans un morceau, qu'on essaie de faire un tube ou un truc, un succès de club justement. Cette top line, on a eu le rap de punchline. Où je pense qu'on est arrivé aussi à un bout du fil où au bout d'un moment les mecs à force de faire des punchlines en fait ils faisaient des ratures d'esprit quoi tu vois et on est arrivé à ce rap de la top line où il faut avoir l'espèce de ligne mélodique qui accroche pendant tout le morceau ou sur un refrain par exemple et bon bah là c'est le tube assuré quoi.
Et on peut même ajouter à ce dont tu parles parce qu'on peut le rapprocher d'une certaine manière du hook du moment dans le morceau qui est le plus accrocheur et il y a l'aspect club prestation live danser etc mais il y a aussi la culture du stream qui fait qu'il faut capter pour avoir pour
rapidement.
Le stream c'est 30 secondes pour avoir le stream réellement comptabilisé et donc il faut surtout pas perdre l'auditeur tout de suite.
Exactement.
Et on lui balance tout de suite la top
line. Le rap français des années 90-2000 t'as une longue intro des fois tu peux avoir des extraits de films c'est ce truc un peu hérité d'IAM aussi d'une certaine manière
les morceaux à la ref qui durent 5 minutes il y a un refrain
où tu vois tu prends le temps d'installer une ambiance etc
là on n'a pas le temps
ok t'es dedans il faut tout de suite accrocher donc il y a plus ces longues intros parfois tu rentres directement dans le beat effectivement parce qu'il y a ce truc des 30 secondes etc voilà tout à fait.
C'est marrant justement comment les plateformes ont changé l'esthétique. Tu vois,
c'est une influence certaine.
Ouais, c'est un truc de ouf quoi.
Bah, on va parler TikTok aujourd'hui.
Par exemple, aujourd'hui, il y a quasiment plus d'interludes sur les albums. Ça existait beaucoup à une époque parce que t'avais un CD. Donc t'avais une œuvre qui commençait par le track 1 et qui finissait par le track 15 ou 16 et entre temps tu pouvais te permettre de mettre des interludes qui montrent un peu l'esprit autour de la création de l'album, de l'esprit de l'environnement dans lequel évolue l'artiste, de plein de choses,
contexte tu vois. Sonore,
ça pouvait introduire un morceau etc. Aujourd'hui on est, je pense que, et encore une fois on revient à la crise du disque, c'est-à-dire que il y a la crise du disque, Apple arrive à y répondre avec l'iPod, t'écoutes les morceaux de plus en plus individuellement déconnectés
morceau
de toute
œuvre.
Donc en fait, tout ce truc d'avoir une œuvre complète que t'écoutes de A à Z, ça n'existe plus. Et arrive en évolution de ça, effectivement, le streaming, qui est un mode de consommation où t'as une bibliothèque ouverte sur le monde entier, tu peux écouter plein de trucs. Donc ton temps...
les journées font que 24 heures.
Voilà. Il est réduit, il faut que tu aies tout de suite un truc qui t'accroche, quoi. Donc, effectivement, je pense que.
Et de toute façon, on le voit.
Les modes de consommation, c'est toujours la même chose, les modes de consommation dictent les formats. Alors, après, c'est aux artistes de choisir ou non de suivre ce dictat.
D'y adhérer, ouais.
Mais en fait, effectivement, ça dicte. Sofiane Fanen, qui a écrit un bouquin justement, Le Boulevard du Stream, où il raconte très bien tout ça, non seulement aujourd'hui, mais aussi justement sur. Il remet en perspective tous ces formats musicaux qui ont existé à l'époque des yéyés, des 33 tours, des 45 tours, des formats radio, etc.
Les radios édites.
Raconte très bien tout ça, que justement, à chaque fois, les modes de consommation de l'industrie musicale, de la diffusion, etc., ça dicte des formats. Et après, c'est aux artistes ou non de vouloir y adhérer. Ce qui peut se comprendre, t'es musicien, tu veux aussi vivre un moment de ta musique, tu peux choisir ou non de le faire.
Ce qui est marrant, c'est que du coup, les gens le référencent maintenant, alors que, tu vois, à l'époque du rap, l'âge d'or du rap français, années 90, etc., quand tout le monde signe, les artistes savent qu'ils font des morceaux avec des radios édites qui sont plus courts, mais ils n'en parlent pas dans leurs morceaux. Alors qu'aujourd'hui, t'as des rappeurs qui disent « Ouais, moi je suis dans le peura depuis la fin du troisième couplet », tu vois, c'est-à-dire qu'ils référencent le truc en étant conscients qu'aujourd'hui, un morceau de rap qui fait plus de 3 minutes, 3 minutes 30, c'est très rare en fait,
finalement.
Alors que début des années 2000, le moindre morceau de rap, il faisait 4-30, 5...
C'est pour ça que les formats, les moyens de diffusion, etc., c'est jamais un truc à prendre à la légère, parce que ça impacte tout.
Ah bah ça change tout. Ouais.
C'est certain, ça fonctionne pour le cinéma. Enfin, ça fonctionne pour tout courant culturel. Netflix, tu vois, les séries, par exemple. Bientôt, je pense que ça va peut-être aussi avoir un impact sur les livres, tu vois. Est-ce qu'avec une liseuse, tu lis de la même manière que quand t'as un bouquin sur les mains? Est-ce que ça va pas déterminer des choses pour les formats? J'en sais rien, tu vois.
Ce qui est marrant, ce qui est notable, c'est que le cinéma prend le chemin inverse. C'est-à-dire qu'au cinéma, t'as des histoires qui pourraient être racontées en 90 minutes où les mecs se sentent obligés de faire des films de 2h30, 3h, 3h30, tu vois.
Oui, après, parce qu'il faut aussi intégrer, c'est-à-dire que un même canal de diffusion qui reste quand même assez constant au cinéma. Globalement, si on pousse à aller en salle idéalement, bon, il y a les streams en parallèle, mais je pense qu'aussi il y a juste des modes tout simplement au sein même d'un seul canal de diffusion. C'est-à-dire que même en salle, eh ben, il y a un moment où c'est la mode de faire des films courts, un moment des films longs, etc.
Mais sur la musique, on est plutôt dans cette culture de l'instantanéité, de il faut que ça aille vite, il faut que t'aies le cœur du morceau tout de suite.
Et après, même en France, on a des contre-exemples où tu vas voir un artiste comme Laylo, par exemple, qui décide de faire un album concept presque narratif. C'est le cas de ses deux derniers albums, Trinity et L'histoire étrange de Mr. Anderson.
Il est quand même un peu matrixé, c'est le cas de le dire.
Ou lui, au contraire, il choisit en fait de dire bah non, en fait, mon œuvre, ça commence là. C'est une histoire qui commence par un point A et qui va jusqu'à un point B.
Et il y a mais Laylo, il est un peu seul dans ce. Lui, il est vraiment dans sa niche de rappeur cyborg, tu vois. Enfin,
Ce qui a valu une fascination de la part de fans, d'ailleurs.
Exactement. Mais je pense que cet album-là a eu des conséquences. Quand on écoute, par exemple, le dernier album de Dinos, Hiver à Paris. On sent que, consciemment ou inconsciemment, ça a eu un impact justement sur la conception qu'il pouvait avoir de sa propre musique, parce que il y a aussi, alors c'est moins balisé, moins strict que sur les albums de Laylo, mais tu sens qu'il a voulu revenir un petit peu à ça justement, Dino, sur cet album-là. Alors, c'est un exemple un peu rétroactif parce que ça sort avant l'album de Laylo, mais quelqu'un comme SCH, quand il fait Julius, il y a moins cette trame narrative un peu stricte, mais tu sens aussi qu'il veut faire un album qui va d'un point A à un point B. Il y a des artistes qui commencent à en revenir de ça, et c'est pas inintéressant, mais même sur Julius 2 par exemple. Je pense qu'il y a des artistes qui commencent aussi à en revenir, même si parfois ils peuvent se permettre, c'est le cas d'SCH par exemple quand il sort Rooftop, où il se dit bon, en fait non, je vais sortir plein de morceaux sur lesquels j'ai envie de me faire plaisir et de faire prendre des temps différents.
Il y a un peu du récit qui
c'est ça, au-delà du récit. Donc il y a aussi des contre-exemples d'artistes qui se disent bon, en fait
c'est bien beau de faire des morceaux individuels qui se consomment, voilà. Machin, mais j'aimerais bien aussi faire un projet qui
ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'il y a des artistes qui étaient dans cette économie du morceau streamable, du tube, et encore une fois, il y a pas de jugement de valeur de ma part, je comprends parfaitement, c'est pas forcément moi ce qui me plaît le plus, ce que je vais le plus écouter, mais je serais intéressé de voir si dans quelques années justement certains de ces artistes-là vont se dire ok, pour cet album-là je vais faire un parti pris et je vais justement au contraire faire un album, quoi. Voilà. Je serais curieux de voir ça.
Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a certes des choix artistiques qui peuvent être décidés de la part de l'artiste, de dire bah moi effectivement je veux m'inscrire sur un truc un peu long avec un point A, un point B comme tu le disais, etc. Mais le truc, c'est qu'en fait on est qu'à moitié dans le choix artistique, parce que c'est une réalité économique où les plateformes te le disent clairement, c'est du flux permanent que tu dois proposer, etc.
Justement, là,
ça rangerait plus de la série que du film.
En en parlant là, justement, quelqu'un comme Sadek par exemple, un rappeur comme Sadek qui a été dans cette économie, je pense, de l'album, où il y a un peu ce cahier des charges de vouloir faire plein de choses différentes, peut-être aussi pour se faire plaisir. Je dis cahier des charges comme si c'était un espèce de truc où tu devais absolument épouser les dictats de l'industrie musicale. Ça se trouve, lui, pour se faire plaisir, il a voulu faire plein de trucs différents. Mais sur son dernier album, qui s'appelle Changement de propriétaire, tu sens que il en revient un petit peu. Et que c'est un album sur lequel il y a un fil conducteur, un peu introspectif, de remise en question. Il n'y a pas de recherche de tube. Donc peut-être qu'on va y venir un peu plus à ça chez d'autres artistes, quoi.
Et puis il y a des effets de façon de mode, d'opportunité aussi,
bien sûr,
voire d'opportunisme. J'avais été marqué par un album, alors on n'est pas dans le français, mais par More Life de Drake, où en fait il avait pondu un album qui était presque une playlist.
Et bah, de toute façon, il l'avait présenté comme ça.
Absolument.
A Playlist by Drake, je crois. Donc, tu vois, on était complètement dedans.
Et il y avait beaucoup plus de morceaux que sur un album classique. Et puis, c'était à chaque fois des esthétiques sonores différentes, variées. Tu te faisais pas chier.
Bon, c'était une compile, quoi.
Une espèce de compilation. Mais c'est quand même brandé comme un album de Drake, tu vois.
Ouais. Mais parce qu'en plus, il sort ce disque, on va dire disque comme ça, c'est plus général que dire album, justement. Il sort en 2017. Donc là, on est au cœur de cette ère du stream qui a commencé vers 2015-2016, où justement, on a les statistiques, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, en temps et en heure en fait. Maintenant les artistes peuvent savoir ça, les artistes, leurs équipes, leurs labels. Donc effectivement, cet album, il est représentatif de ça, quoi.
Son époque.
Exactement.
Est-ce que pour terminer cette partie et embrayer sur autre chose, on va essayer de faire un peu plus court ensuite, on peut terminer en citant quelques trucs, parce que là on a parlé de trap, de drill, de cloud, de musique club, d'afrotrap, excuse-moi.
Mais enfin, même l'afrobeat nigérian, on commence aussi à avoir des influences en France.
Absolument.
Un artiste comme Aya Nakamura par exemple.
Bien sûr, à fond. et on pourrait rajouter plein de trucs. Alors, est-ce que c'est vraiment des scènes, des mouvements? Je sais pas, c'est toi qui vas me dire. On pourrait parler de plug, de drip.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que tu peux, on peut juste comme ça au moins, et puis un ou deux, tu vois, on écoute juste un morceau sans rentrer dans les détails, mais peut-être des trucs actuels, tu vois.
Je vais citer quelqu'un qui est plus vieux que moi, et qui s'appelle Texaco. Qui a été très important dans l'histoire du rap français parce que c'est quelqu'un qui fait des mises en relation, qui a bossé sur string marketing, qui a bossé avec des artistes et qui avait dit un truc intéressant à une interview de l'ABCDR du son, qu'on le veuille ou non, la jeunesse a toujours raison, surtout sur des genres musicaux comme celui-là. Et je pense que d'une certaine manière, on peut y adhérer ou non, peu importe, là c'est au-delà des goûts personnels. Je pense qu'à partir du moment où des jeunes qui aiment une musique et qui essayent de faire ça à leur sauce, ils sont dans leur temps, donc certains ils ont raison. Ça veut pas dire que c'est de la, j'aime pas ce mot-là, mais de la grande musique, ou en tout cas de la musique qui va être pérenne, qui va durer, qui va avoir de l'influence, mais ils sont dans leur temps, ils font la musique qu'ils ont envie d'entendre. En fait, je pense que c'est ça le plus important.
L'énergie de la jeunesse avant tout.
Exactement. Et donc effectivement, en France, il se passe plein de choses aujourd'hui, avec, alors c'est encore des scènes, j'ai presque envie de dire élitistes plus que de niche, c'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment ce truc de on veut pas faire comme les autres, quoi, d'une certaine manière. Ce qui est un truc très propre à la jeunesse aussi, parfois, de vouloir se séparer du reste, quoi, tu vois. Et effectivement, il y a aujourd'hui...
Je pense aux plugs et tout.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a effectivement, aujourd'hui, il y a des artistes, et c'est pas des choses sur lesquelles je suis très spécialisé, donc ça va être compliqué pour moi de te donner des exemples.
Okay.
C'est juste des choses que je vois t'observe, passer, sur lesquelles il faut que je sois justement plus érudit, sur la brèche.
Ouais.
Effectivement, en fait, il y a des choses influencées de musique électronique. Alors, j'ai vu passer les mots de glitchcore, d'hyperpop, etc. C'est des gens qui vont être influencés aussi par des artistes aux États-Unis comme Playboi Carti, comme Yeat, qui sont effectivement dans une musique où t'as presque l'impression que c'est de la musique de jeux vidéo avec des basses.
Il y a de la culture web dans cette musique, en fait.
Exactement, c'est vraiment ça, ce truc de culture web où tu vas sur la répétition de mots, c'est presque des mantras, tu vois. Et en fait, c'est des poches créatives constantes. Tu vas avoir aussi des choses influencées parce que justement, des gens comme PNL, puis des gens comme Lompal, etc., ont amené de plus en plus des manières de chanter presque héritées parfois de la chanson et de la variété française, tu vois. Tu vas avoir aussi ce genre de sous-autotune, tu vois. Il y a plein de choses constamment, en fait.
Il faut d'ailleurs insister sur le fait, je sais pas si c'est toujours d'actualité, tu vas me dire, que SoundCloud, par exemple, a été un truc important.
Bah, bien sûr, je pensais au mumble rappeur de SoundCloud, où moi je suis tombé justement sur un mec qui rappe en français, mais je crois qu'il est d'origine argentine ou un truc comme ça, mais c'était une calamité en fait, auditive. Mais vraiment, mais d'un autre côté, je me dis, il faut qu'il y ait des gars comme ça, tu vois, et t'écoutes, parce que moi j'adore lire les commentaires, tu vois, donc j'écoute le son, j'ai mon avis dessus, je pense que c'est éclaté, je lis les commentaires et je me dis, ok, j'ai pas du tout entendu la même chose.
Bien
donc
sûr.
Il faut que je réécoute là, parce que c'est pas possible. Les commentaires sont dithyrambiques, genre incroyable, machin. Et en fait, c'est ce qui fait aussi la richesse du mouvement musical, en fait. Et je trouve ça trop cool de me dire qu'il y a des gens qui peuvent se buter avec un truc que moi je considère comme insupportable. C'est trop bien.
Et c'est pas grave.
C'est trop bien.
La seule nuance que j'apporterai à ça, je pense que c'est toujours important, effectivement, d'avoir cette forme d'ouverture d'esprit. Et en fait, de se dire que la même manière que moi, quand j'étais gamin, j'écoutais du rap, mon père me disait, mais c'est quoi cette musique de merde?
Exactement.
Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a un temps pour des musiques qui sont écoutées par des jeunes. Qui vont peut-être encore écouter dans 20 ans, et dans 20 ans, leur parlant, c'est de la merde.
Ce qui est drôle, c'est qu'on est dans le même cours musical.
Exactement.
Vois, contrairement à nos parents qui n'étaient pas
ça,
du tout
vrai.
Dans le.
Ça, c'est vrai. Je pense que par contre, il y a un vrai problème en France qu'il n'y a pas aux États-Unis, c'est qu'on n'arrive pas à chérir les vieux auditeurs et la musique de leur époque-là. Je pense qu'aujourd'hui, on arrivait en France à un moment où ce serait pas déconnant qu'il y ait une radio nostalgie du rap, en gros, tu vois. Parce que c'est un public qui écoute, c'est un public qui consomme, et si on entretenait en France ce public-là,
c'est exactement ce que je dis depuis.
Il y aurait un cercle vertueux. Là, on parlait du cercle vertueux justement qui a créé le streaming d'une certaine manière. Je pense qu'il y aurait un cercle vertueux qui permettrait à ces artistes-là de mieux tourner aujourd'hui, de défendre leur ancienne musique, qui leur permettrait.
Qui permettra à des gens de faire du rap qui s'adresse au quadra.
Exactement.
Parce que moi, j'ai 44 ans et effectivement, je me sens pas représenté parce que la musique, le hip-hop, c'est une musique de représentation. Et en France, on a toujours, c'est un truc qui moi m'a toujours trigger que le rap en France soit considéré comme une musique de transgression et de passage à l'âge adulte. Sous-entendu, t'écoutes du rap quand t'as entre 13 et 20 ans et puis arrivé à 25-30, tu commences à écouter autre chose. Alors, tu vas faire du jazz, tu
fais des jeux vidéo.
Par contre, ça, ça existe. Je pense à quelqu'un, par exemple, comme Furax, qui est un artiste toulousain. Après, qui est dans nos âges aussi, tu vois, qui a sorti un album. C'est un grand album de rap français qui reprend des codes de ces années-là sans sonner comme une pâle copie.
Oui.
Tu vois? Et vraiment, et je pense qu'il y a d'autres artistes, quelqu'un comme Souffrance. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plein d'artistes.
Tu vois, il y a Souffrance, il y a tout ça, mais je veux dire, tu prends Jay-Z aux États-Unis, le mec, il s'adresse aussi bien au mec de 50 ans.
Bien sûr.
Qu'à une auditrice de 21, tu vois. Et en France, c'est très, très compliqué
de réunir les publics.
C'est là où je parlais du fait de chérir les rappeurs de cette époque-là et leur public. Tu parlais de Jay-Z, et je pense que on est au cœur de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un rappeur de la fin des années 90, début des années 2000 revient, je pense qu'il y a une partie du public qui va attendre de lui qui se réactualise. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, en fait, parce que tu tombes dans le jeunisme et tu peux complètement passer à côté.
Le truc, c'est que du coup, l'artiste en France qui se rapprocherait le plus de ça, d'avoir une carrière suffisamment longue c'est pour Booba. Qu'on puisse voir les évolutions, c'est Booba, effectivement. Mais Booba est aussi dans une recherche constante de capter un public jeune, quitte à s'aliéner ses anciens auditeurs. Et moi, je connais beaucoup de gens qui se sont butés avec Lunatic et avec Temps Mort. Et qui, là, maintenant, te disent « Ouais, mais Booba, c'est pas ouf, il rappe plus, tu vois. »
Et est-ce qu'il arrive encore à le faire? Moi, ça m'est venu des insultes et même des menaces de fans. J'avais dit « Bah, en fait, Ultra, je trouve que c'est pas un bon album.
Ouais. »
Parce que je trouvais qu'en fait, malgré sa manière de pouvoir sentir les choses qu'il a eues pendant très longtemps, ça, c'est clairement un truc qu'on peut lui reconnaître vu la longévité qu'il a eue. Je trouve que sur cet album, ça ne fonctionne plus. Alors après, c'est mon avis.
Oui, est-ce que même un artiste comme Booba n'est pas un peu has-been, tu vois? Alors, pour lui, heureusement, il y a encore Rof qui est encore plus has-been, donc ça lui permet d'avoir toujours une tête de plus.
Et je pense que, tu vois, c'est symptomatique de ce que je dis sur le fait que il faut laisser aux artistes le fait de vieillir et le fait de pouvoir faire de la musique de leur âge sans qu'il y ait cette dictature de...
Du jeunisme.
En fait, ça se trouve, il n'y a pas besoin de faire ça, les mecs, quoi.
Après, Raphaël, est-ce qu'il n'y a pas un truc sous-jacent derrière aussi cette discussion qui n'est pas tant vieux, jeune, etc., mais de dire que... Bah, ça manque peut-être un peu d'ouverture aussi dans toutes les scènes rap. C'est-à-dire que chacun a son petit truc chéri un peu, etc. Et que c'est difficile de se connecter à l'autre parfois aussi, quoi.
Bien sûr. Mais non, mais on a en fait toutes les bases. C'est-à-dire que tu vas aux États-Unis, c'est là que tu te rends compte à quel point la culture rap infuse la société là-bas. C'est que moi, je vais régulièrement à Los Angeles, je suis là-bas, je vois des gens de 45-50 ans qui discutent entre eux en se balançant des punchlines de Jay-Z ou de Nas, mais dans la conversation, tu vois. Et pour eux, c'est naturel.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils font pas ça en disant « Ouais, je vais faire une punchline hip-hop. » Non, là, je suis en train de parler de ma vie, tu vois. Et je suis là, je fais « Putain, en France, il y a que les mecs qui sont dans un certain courant musical qui vont capter que t'es en train de référencer une phrase d'Oxmo ou d'Arsenic à l'ancienne. »
Tu veux dire que ça va même au-delà de... Moi, j'évoquais le fait que c'est au sein du rap aussi qu'il y a des clivages. Tu veux dire que même globalement, la musique, en France... Après, il y a un rapport à la musique qui est différent.
C'est complètement différent. Et c'est pour ça qu'en fait, en passant du temps là-bas, je me rends compte à quel point, alors qu'on est le deuxième marché rap au monde, je me rends compte à quel point on est toujours à la bourre de ouf.
Tu te rappelles qu'on avait reçu Hajar Ben Moubaker, on avait parlé de musique arabe.
Ouais.
Et qu'on avait. J'avais mis un peu les pieds dans le plat en disant que la France n'était pas un pays de musique.
C'était
pas un pays de culture populaire d'ailleurs, de manière générale.
C'est ça qui est ouf.
C'est le problème de la variété, en fait. Il y a. C'est un journaliste qui s'appelle Sylvain Cureau qui dit que c'est un point de vue qui peut se défendre, sur lequel je suis pas entièrement d'accord avec lui, qui dit qu'en gros, le rap français réapplique les mêmes méthodes depuis des années que la variété française. Variété française au sens de la grande variété des années 60 à 80, qui en gros ne fait que réadapter des codes américains pour le marché français.
Ouais.
Je pense qu'il y a des spécificités du rap français.
C'est fini.
Qui sont pas exactes, même depuis le départ, mais je comprends un peu son idée. Et ça rejoint un peu ce que tu dis sur le côté, on n'est pas un pays de musique, parce que finalement, on est un pays de consommateurs de musique plus qu'un pays véritablement de musique. Je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux.
Mais c'est vrai que qu'un chanteur qui est révéré comme Johnny Hallyday, à l'ère d'Internet, Johnny Hallyday aurait eu une carrière minable.
Le mec,
pour moi, ne faisait que importer des trucs à l'époque où aller aux États-Unis, c'était aller sur Mars.
Il est passé à autre chose après, quand même, à ma connaissance.
Attention, je veux dire, il a pu être lancé parce qu'il a adapté des standards certes. US à la sauce française pour des gens pour qui je te dis aller aux États-Unis.
Tu veux dire qu'à l'ère de la globalisation, des flux directs.
Aujourd'hui, t'as des petits qu'on grandit en banlieue nantaise qui vont être beaucoup plus calés que nous sur certains types de musique. Sûr. Alors qu'ils n'ont jamais voyagé. Tu vois,
je crois que le nerf de la guerre, surtout, ce que j'essaie d'évoquer, c'est le fait que dans le quotidien, dans le rôle que peut avoir comme lien social la musique, etc., c'est pas un truc essentiel en France. C'est pas un truc essentiel par rapport à plein de pays.
Je suis plus partagé que ça. Ouais. Je pense qu'on a un problème d'éducation musicale en France, ça c'est certain. Moi j'ai vécu, encore une fois, je vais faire un pas de côté juste pour raconter une expérience différente, mais de toute façon se confronter à d'autres pays et d'autres cultures, c'est toujours intéressant pour avoir une propre réflexion sur sa propre culture. J'ai vécu un an en Irlande, et là-bas, déjà dès l'école, ils ont un rapport, ça fonctionne aussi pour le sport, au sport et à la musique qui est complètement différent parce que c'est déjà au cœur de leur enseignement. En France, la musique, c'est tout.
C'est la flûte au collège.
Bon, voilà. C'est pas le cas chez eux. C'est-à-dire que chez eux, il y a déjà une sensibilisation plus grande à d'autres instruments de musique. Il y a même des groupes.
Oui, mais d'où ça provient, ça? Pourquoi c'est au cœur de l'enseignement? C'est parce que
c'est une tradition
ancrée culturellement.
Je suis d'accord.
Ce qui fait défaut, à mon avis, à la France.
Oui, ouais, tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi.
Ce que tu peux peut-être avoir dans certaines régions de la France. Genre, peut-être en Bretagne, ils sont un peu plus attachés à ça.
C'est possible, j'en sais rien.
Mais par exemple, je pense que quand on parle de musique, tu sais, qui fait du lien social, du quotidien, etc., les musiques folkloriques, entre guillemets, avaient ce rôle et qu'à travers. L'histoire de la France et l'unification, et comment on a cassé quand même aussi une partie des cultures locales, régionales, etc. C'est on possible. A perdu aussi un peu de ça.
Bien sûr. La centralisation. Mais c'est quelque chose qui. En fait, à un moment donné, je me disais, on y arrivera. Tu vois, à voir ce côté où la musique transpire dans la vie des gens et où je te dis vraiment. Enfin, c'est pas un cliché de dire ça. Tu te balades à LA, où que tu ailles, t'as un mec avec une enceinte qui est en train de blaster des trucs, que ça soit de la soul des années 70 ou du rap à la Wu-Tang ou des trucs plus actuels, partout, tout le temps, en fait, en permanence. En France, tu l'as pas, ça. Tu l'as pas. C'est un truc de fou à quel point, en fait, la musique se consomme vraiment de manière personnelle, c'est-à-dire que en faire profiter quelqu'un dans la rue, c'est limite considéré comme une nuisance, ouais, tu vois, on entend, ils font chier, les gens qui écoutent sur haut-parleur, ils nous emmerdent, machin,
parce
etc.
Parce qu'on revient à ce qu'on dit souvent, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais effectivement, où en France, ce qui est plus important, c'est l'interprète, ce qu'il dit dedans, le texte, parce qu'on est un pays littéraire, etc. Ça par contre, c'est vrai que je le... Tu vois, en France, on a la fête de la musique, comme s'il fallait une journée en particulier pour partager la musique, alors qu'en fait, la musique, c'est une fête, ça devrait être une fête tous les jours.
Ouais, je suis complètement d'accord. Mais je me dis, on n'y arrivera jamais. Tu vois, là,
Mais par contre là je suis d'accord avec toi, effectivement Salman, je pense que c'est effectivement culturel et que c'est compliqué. Mais comme le sport, vous voyez, en Irlande par exemple, les gamins, parce que je travaillais dans un collège lycée, les gamins ils faisaient tous chacun deux sports. En France, il y a des gamins qui font pas du tout de sport. C'est juste parce qu'encore une fois c'est culturel, quoi.
Il y avait plein d'autres trucs qu'on voulait voir avec Raphaël. On va être pris par le temps parce que t'as un train.
Voilà, j'ai donc, un train, voilà.
Écoute, on te réinvitera, je sais pas, on continuera.
Non, mais c'est vrai
qu'il y avait deux points que j'aurais aimé aborder, c'est l'aspect économique d'une part, et puis aussi autour des discours, et notamment pour rebondir sur. T'as sorti un édito récemment, enfin
une tribune
sur l'abécédaire, où tu t'arrêtais un peu sur les discours qui entourent le rap, que ce soit de la part des rappeurs, des fans. Les discours parfois aussi tu critiques en disant il faut qu'on réagisse, il y a des trucs même qui sont graves parfois, qui se disent dans le rap, et je trouvais intéressant d'en parler. Est-ce que peut-être quelques phrases quand même, est-ce que c'est on disait que parfois à travers les esthétiques sonores, les scènes différentes, etc., il y avait des ponts et parfois pas du tout, voire de la confrontation, ou en tout cas ne pas accepter dans un premier temps du mépris, etc. Est-ce que c'est un peu la même chose sur comment on aborde le rap, comment on le vit, est-ce que c'est censé véhiculer, ce qu'on en dit, est-ce que disent les artistes?
Après, c'est toujours la question de est-ce que le rap doit être toujours lié à
son histoire,
sa philosophie de départ et le sérail dans lequel il est né, c'est-à-dire ces populations paupérisées, des minorités afro-américaines, au sens très large aussi, parce que c'est aussi les latino-américains, notamment à New York, et qui portent un message justement d'émancipation sociale, de lutte sociale, même en fait d'une certaine manière d'acceptation de l'autre, puisque je vais pas faire Africa Bambaata, mais hip-hop c'est having fun, tu vois,
peace, love, unity, having fun.
Donc il y a une forme aussi de...
C'était une forme quand même du hip-hop, qui est pas l'unique forme
qui est pas
du hip-hop
une forme, mais
c'était quand même la forme fondatrice.
Mais c'était ce truc de...
À moitié. La forme fondatrice, c'est faire la fête dans les blocs block party.
Oui, c'est faire la fête, mais la faire la fête tous ensemble, qu'importe si on est d'une certaine manière, tu vois. Et le hip-hop new-yorkais des années 70 et 80, c'est aussi le hip-hop qui commence à prendre sa place dans les quartiers chics, tu vois, et dans lesquels on peut retrouver justement une forme peut-être de mixité sociale. C'est peut-être, je romantise un peu les choses, sans doute, je pense, mais j'ai un peu cette image-là. Après, effectivement, le rap étant ce qu'il est, le rap, il reflète aussi la société. Et ça, c'est des débats vieux comme le rap. La place des femmes, la misogynie, quelle place on fait pour les minorités sexuelles aussi.
Et surtout, est-ce que ça fait débat au sein du rap, surtout, à ta connaissance?
Bah, je pense que oui, ça fait débat. Ça a toujours fait débat, finalement.
Mais à la hauteur des enjeux?
Non, ça, j'en suis pas certain. Parce que ouais, je pense qu'il faut en parler de manière peut-être plus frontale. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cet article en disant attention en fait, dire des propos qui peuvent être discriminatoires envers d'autres communautés, qu'importe ce que si c'est pas le comment dire, si on s'y reconnaît pas dans son mode de vie par exemple, etc. À partir du moment où on commence à avoir des trucs très généralisants, est-ce qu'on n'a pas un discours qui se rapproche de celui de l'extrême droite, de la droite, etc. Et qui rentre en contradiction avec d'autres propos qu'on peut dire, justement en disant qu'on subit le racisme, qu'on subit un mépris de classe, etc. Et effectivement, voilà, que ce soit chez des auditeurs, qui ont peut-être pas, des jeunes auditeurs qui n'ont peut-être pas cette culture qui leur a été transmise, parce que comme on est dans une courroie de transmission depuis effectivement l'avènement de l'ère du streaming à partir de 2016, une forme de, en fait, ce cercle vertueux dont on parle plus ou moins depuis.
Moi, je sais pas si en parlant de streaming, je mettrais le terme vertueux dans tout ça. Mais
ça crée un cercle vertueux dans l'économie du rap, dans la popularisation du rap. Ouais. Et en fait, on parle beaucoup aussi depuis tout à l'heure de ce truc de, c'est un truc de jeunes. Et en fait, quand on est jeune, bah, on suit aussi le troupeau d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça se trouve aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui s'intéressent au rap parce que leurs copains s'intéressent au rap. Et ça se trouve, dans 2 ans,
bien sûr,
ils vont lâcher le truc. Mais c'était déjà le cas à mon époque. Moi, je suis à peu près certain qu'aujourd'hui, si je vais sur Facebook, déjà il faut que je dépoussière mon Facebook. Si je vais sur Facebook et je demande, disons, aux gens qui étaient dans ma classe en 3e ou en 2nde, il y a encore combien de gens aujourd'hui qui écoutent du rap?
Il y en a plein qui n'écoutent plus.
Ça se trouve, il y en a plein qui n'en écoutent plus.
Bien sûr.
Parce qu'encore une fois, c'est un truc de mode de jeunesse, etc. Et je disais ça pourquoi? Oui, parce que je pense qu'il y en a plein qui prennent le rap en cours de route, parce que c'est le truc du moment pour être in, tu vois, mais qui ne sont pas du tout en phase avec les réalités socio-démographiques, économiques de ce que porte le rap, en fait. Et effectivement, et ça se voit parfois dans les réactions de certains fans, d'avoir des discours qui sont très... avec du mépris de classe, pardon, ou même du racisme, en fait. Il y avait Midi Minuit, qui est un média qui existe depuis pas très longtemps, qui ont fait une espèce de tribune. Qui ont fait une tribune aussi, alors, eux, sur leurs réseaux sociaux, en disant, quand on lit dans... Parce qu'ils ont une ligne éditoriale, ils parlent d'un certain type de rap, tout à l'heure, on revient encore à ça, d'un certain type de rap, justement, d'un truc très, très quartier, justement, qui va parler de, des moyens de survie économique, tu vois, de la bicrave, etc., avec des codes esthétiques qui sont liés à ça. Et donc ouais, ils ont été moqués en disant ouais vas-y c'est du rap de bandeur de cité, etc. Ouais. Et là en fait tu vois qu'il y a un décalage et on en revient à, et c'est un peu le mauvais pendant de cette popularisation et de cette polarisation, pour reprendre le mot que tu disais, de cette polarisation du rap et de ses publics, c'est que effectivement t'arrives à ce genre d'incompréhension, mais là c'est des incompréhensions en fait qui portent des discours discriminatoires en fait, ni plus ni moins. Et par exemple, là, c'est aussi Street Press. Ils font un boulot assez formidable là-dessus. Ils font beaucoup de veille sur tout ce qui existe en termes d'expression culturelle de l'extrême droite en France, et qui ont fait des articles sur des rappeurs d'extrême droite. Ouais. Il y en a notamment un qui est très populaire sur TikTok.
Cro-Blanc et
c'est Minezimka pour le coup, pour ne pas le citer. Ça m'embête de faire la pub pour ce monsieur, qui est très populaire sur TikTok. Je serais pas surpris que parmi tous les jeunes qui le suivent sur TikTok, il y en a certains qui écoutent d'autres artistes de rap, tu vois.
Et qui voient pas le problème.
Ouais. Alors que si, en fait, tu vois,
parce que précisément, problème,
le mec tient un discours d'extrême droite sur les migrants, sur les minorités sexuelles, sur plein de choses, tu vois. Sur la place des musulmans dans la société française, etc.
C'est la preuve aussi qu'on est arrivé à un niveau...
Même les fachos se mettent à faire du rap, c'est bien.
Ouais, mais en fait, c'est ça. Ça veut dire que le rap est c'est la pop, littéralement. C'est-à-dire que maintenant, tu peux avoir des gens qui sont pas du tout alignés politiquement, qui se mettent à utiliser ce moyen d'expression.
Ça m'irait si, en face, c'est un peu, je le dis de manière trop schématique, mais si dans le rap on était armé aussi pour avoir un regard politique affûté, critique, etc. Et c'est ce qui manque.
Oui, ah, c'est quoi, tu vois. Effectivement, le rap grand public s'est dépolitisé de manière, j'ai envie de dire,
c'est libéralisé.
Oui, aussi idéologique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours
Il y a un fond, tu vois,
par exemple, sur les violences policières. Il y a souvent des choses qui reviennent sur les violences policières, etc., tu vois. Mais effectivement, tu vois, même encore dans les années 2000, au moment, par exemple, des émeutes, où on avait une forme de sarkozisation de la politique française, parce que Sarko s'était devenu au centre de tout, tu vois. Ouais. Et son discours sur l'immigration, sur la sécurisation à fond de la société, le rap français... Peut-être aussi parce qu'on était dans la crise du disque, que les rappeurs vendaient moins et que peut-être ils avaient cette...
Il fallait faire du buzz.
Je dirais pas qu'il fallait faire du buzz, mais il y avait peut-être moins sur leurs épaules ce truc de... Si j'aborde ces sujets-là, je vais vendre moins de disques. Enfin, tu vois, je schématise peut-être un peu les choses et c'est peut-être beaucoup plus complexe que ça, mais t'avais du coup cette liberté de dire « Mais en fait, ces discours politiques qui nous rejettent, on vous emmerde, on n'est pas d'accord avec ça.
Ouais. »
Et ça fonctionnait autant chez un groupe comme Tandem que, évidemment, alors La Rumeur qui a eu 8 ans de procès avec le ministère de l'Intérieur, chez des artistes comme Cazet, mais même, tu vois, des gens qui étaient... beaucoup plus intégrés au système économique comme Sniper. Sniper, ils ont eu des problèmes d'annulation de concerts en France à cause d'un morceau comme La France, à cause d'un morceau comme Jeteur de pierre, qui est un morceau plutôt nuancé en plus, tu vois, sur lequel ils essaient de comprendre les positions. C'est un morceau qui parle du conflit israélo-palestinien. Où ils essaient
c'est casse-gueule ça.
Hein. C'est fort.
Il n'y a plus de rappeurs qui se diraient tiens, on va faire un morceau sur le conflit israélo-palestinien.
Non, bien sûr.
Tu vois, enfin, c'est...
Voilà, exactement. Et je pense qu'il y a effectivement cette politisation d'une génération de rap français encore dans les années 2000. Dans les années 2010, ça, et aujourd'hui, là, au début des années 2020, on l'a quasiment plus, sauf sur des trucs très spécifiques du type, par exemple, les violences policières. Je pense à un morceau comme Fuck le 17, par exemple, de 13 blocs, et qui, à peine sorti, avait fait extrêmement polémique, parce que t'avais des trucs genre, je cite, mort au port, j'ai pas envie d'avoir de problème avec les instances policières de ce pays. Je cite, tu vois, par exemple, et ça a été du coup censuré.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que je voulais quand même qu'on l'aborde rapidement à la fin, c'est que on a parlé des esthétiques sonores qui sont diverses et que mine de rien, parfois autour des scènes, il y a des discours spécifiques, etc., qui rentrent parfois en confrontation, parfois non, voire parfois aussi, l'esthétique sonore peut éclipser le discours. Dans le sens où, parce que tout à l'heure on citait Freeze Corleone, je pense que c'est un exemple intéressant. Freeze Corleone, sa musique est très bien, c'est un mec ultra fort.
Mais il est complètement con.
Moi, aujourd'hui, je commence à avoir du mal à parler en bien de Freeze Corleone. Parce que, au-delà même de ce qu'il dit dans ses morceaux.
Raciste, machin, etc.
Le discours qu'il a publiquement sur les réseaux, etc., il commence à être vachement problématique.
Oui, il y a de plus en plus de gens qui réagissent à ça aussi, quoi.
Et comment. Mais est-ce que c'est vraiment la norme dans le rap de l'interroger? J'ai pas l'impression non plus, tu vois.
Mais non, mais ça.
Tant que sa musique, elle claque, ça va.
Rappelle-toi ce que Florian disait, Florian Lecerf, qu'on a reçu ici, c'est que les médias rap ne se permettent plus de critiquer le rap, parce qu'il y a trop de risques. Déjà, il y a des conflits d'intérêts, puisque les médias rap se mettent à produire du rap. Il y a le risque de se prendre une mandale par le rappeur qui est pas content et qui va te demander des comptes sur ta chronique. Et en fait. Il y a un genre de...
Alors, je serais plus nuancé que ça, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des propos où j'étais pas favorable à un artiste, tu vois, pas un artiste, mais un album, tu vois.
Non, mais cette tendance de plutôt voir le verre à moitié plein que de parler du verre à moitié vide,
Je parle du fait de se prendre une mandale, tu vois, par exemple. Ouais. Je pense que...
T'as certainement eu des menaces ou des...
Ah oui, ça m'est arrivé.
Tu vois.
Bien sûr.
Alors que tu donnais juste ton avis sur un album.
Bien sûr.
Ce qui est quand même incroyable.
Absolument.
Après,
je pense que si tu le fais dans de bonnes conditions et si t'es...
Constructif.
J'allais dire aussi si t'es soutenu. Par exemple, quand ça m'est déjà arrivé.
Ouais. Alors,
c'était compliqué parce que c'était arrivé dans une émission de la BCDR du son. Puis finalement, la personne en question a fait remonter ça à un de mes autres employeurs. Enfin bref, c'était très, très compliqué. Ouais. Mais l'employeur en question a dit bah en fait déjà c'est pas chez nous, en plus c'était pas moi qui avais tenu les propos, c'était dans l'émission dans laquelle j'étais, bref c'était très compliqué, mais il a dit bah en fait non, et en fait il a tenu son rôle de patron de média, tu vois, en disant bah en fait non, ça fait partie du jeu, la critique ça fait partie du jeu, il y a personne qui a été insulté, donc voilà. Après oui, mais je peux comprendre parfois qu'un artiste puisse être vexé, il peut mettre sa vie, il peut mettre, tu vois, de lui dans son art.
Ouais, mais enfin, normalement tu t'attends à ce qu'il y ait un peu de recul quand même à se dire je peux pas plaire à tout le monde. Exactement. Surtout que c'est des gens qui justement jouent de cette image, jouent des clivages, jouent de ce truc là. Les gars savent très bien que ce sont des underdogs, et par contre, ça veut dire qu'à un moment donné, ils acceptent pas la critique. Mmh. Moi, je trouve ça incroyable.
Non, mais je suis d'accord.
Tu vois, et par exemple, je le dis ici, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, Salman. Fritz Corleone, j'aime bien le style.
Moi aussi. C'est
cette façon, en fait, d'utiliser toujours les mêmes mots pour faire ta rime, ça me rappelle un peu le 113 à l'ancienne, tu vois. Mais effectivement, je suis obligé d'admettre que sur certains discours, il est complètement con.
Et en fait, moi, j'ai. Parce que c'est ce que j'applique de manière. Et ça, c'est que moi. Je sais pas quelle est la meilleure forme à adopter, en tout cas c'est ce que je fais, c'est je peux admettre d'écouter des trucs, de dire je trouve ça trop bien, mais par contre je vais préciser à chaque fois, là ça me pose problème.
Mais oui, mais je pense que c'est important de le dire.
Voilà, et au moins qu'on en arrive juste à ça, tu vois, pas qu'on commence à dire lui il faut le mettre de côté, le machin, mais au moins déjà qu'on ait un regard critique mais en disant...
En fait c'est le propre du j'ai presque envie de dire du débat démocratique, tu vois, tu peux pas être... Si intimement t'es pas d'accord avec ça, tu dois pouvoir le dire...
Mais c'est vrai que c'est mal perçu, puisque tu vois la tribune de midi minuit, t'as vu ce qu'ils se sont pris derrière.
Ouais, bien sûr.
Et même en dehors de ça, c'est-à-dire
que c'était pas non plus un truc incroyable qu'ils étaient en train de dire, tu vois. Donc
et au-delà de la critique et du journalisme, c'est le fait, par exemple, que presque tout le monde cherche à fitter avec Fritz Corleone et qui sort plein de... est-ce que tu peux pas te dire aussi, bah quand tu fais un fit avec Fritz Corleone, c'est pas complètement anodin. Ouais. Et c'est ce que j'applique dans cette émission. C'est il y a des gens où parce qu'ils peuvent être un peu polémiques, parce qu'il y a eu des histoires personnelles, tout ça, je vais me dire, peut-être que je vais pas les recevoir.
Mais c'est ton droit.
Je dis pas que c'est un sale type, je le connais pas assez, je connais pas les détails, etc. Mais je préfère prendre des précautions. J'aimerais bien entendre parfois un discours d'un artiste qui dit, moi, telle personne, je la trouve forte, mais il y a des trucs qui me gênent et donc je collaborerai pas avec elle.
Tu l'entendras pas, par contre, tu le verras qu'il collaborera pas avec.
Ce que je vois, c'est que beaucoup collaborent avec.
Oui, ouais. Mais après, c'est des artistes qui en plus se considèrent comme. À la marge du système, et donc si t'es contre moi quelque part, c'est que tu me persécutes un peu, et du coup ça rappelle quelque chose, et d'ailleurs je vais en parler dans un texte, et après il te fait un parallèle chelou avec la Shoah, et là tu fais tu vois, c'est, non mais en fait j'arrive à comprendre le cheminement de pensée, mais en fait à un moment donné il faut dire ce truc là particulièrement était totalement con, mais je pense que les artistes sont aussi divers. Donc, Fritz Corleone peut avoir des fulgurances sur certains trucs, et puis le morceau d'après, il te fait un truc qui est éclaté. Mais ça fait partie aussi du truc, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir des artistes qui te font de la merde, et puis qui font des trucs bien, et puis des morceaux moins bien, et puis qui se permettent de donner un avis politisé, où tu te rends compte que il a pas trop compris ce que c'était que la politique et machin, et puis ça vire complotiste, etc. Est-ce qu'il faut foutre le truc, l'intégralité du truc à la poubelle? Je suis pas sûr non plus que ce soit.
Non, mais il faut pas rentrer dans une logique de censure souvent contre-productive non plus.
Ouais, on est d'accord.
Non, mais juste simplement dire les choses, quoi. C'est ce que j'ai essayé de dire effectivement dans ma tribune.
Mais oui, mais elle faisait du bien cette tribune.
Merci.
Bon, on termine avec nos recommandations.
Allez.
Tu sais que Raphaël, on s'était engagé lors du dernier épisode.
Moi, je m'en rappelle pas, mais ok.
Si, je te jure que c'est vrai. J'ai réécouté, je t'assure que c'est vrai. On s'est engagé avec Daz à faire des recos en allemand. Ouais. Es ottoman.
Je suis désolé, moi j'ai fait LV2 espagnol. Donc
moi aussi, mais...
Allez-y, messieurs.
Oui, mais commence à réfléchir à ton morceau. Parce que
je sais déjà.
C'est vrai?
Ouais, ouais.
Bon, on commence avec nous, avec l'allemand, Daz.
Allez, c'est parti, il faut évacuer le truc.
Vas-y.
Alors, moi, j'ai un artiste qui s'appelle Elias.
Ok.
Un morceau qui s'appelle God is Great.
Ok. C'est pas très allemand pour le moment.
Non, mais du coup, et tu vas voir, ça remplit le cahier des charges dont on parlait. Déjà, ils reprennent tous le flutio de Maskov. Avec des notes différentes.
Il y a eu un moment, ça s'est dit.
C'est un super fou. Mec, mais non. C'est pas exactement les mêmes notes.
Oui, d'accord, mais c'est en anglais surtout.
Non. Pas du tout.
Il a des mots en anglais.
Ok, j'accepte.
Ça passe. Hein. Ce qui est génial, c'est que c'est tellement standardisé que effectivement, ça peut être américain, anglais, français. Il a dit Dr. Dre, t'as vu?
C'est reconnu.
Donc c'est Elias. Donc c'est un. Alors c'est marrant.
Mais c'est pas mal.
C'est un Congolais. Il est né au Congo.
Ok.
Et lui, au lieu de venir en France comme tous les Congolais qui viennent en Europe, il est parti en Allemagne.
Ou en Belgique.
Bien sûr, Belgique francophone. Lui, il est parti en Allemagne. Donc il a décidé de jouer la vie en mode difficile. Et finalement, ça passe. Tu vois.
Et
donc,
écoute, oui.
Elias, voilà.
Parfait. J'enchaîne avec un truc en allemand aussi.
Allez, vas-y.
Alors j'ai pris un truc à l'ancienne.
Ah.
J'ai pris une espèce de, j'en parlais tout à l'heure, de proto-rap. C'est un peu c'est un peu le chacun fait ce qui lui plaît allemand.
Oh la vache.
mais du respect.
Mais j'attends grand amour, s'il te plaît.
J'attends non, mais en plus, c'est un artiste intéressant.
Comment il s'appelle?
C'est Falco.
Falco.
Et Falco, c'est, donc le morceau s'appelle Der Kommissar, c'est sorti en 81. Et c'est certainement l'un des premiers mecs qui a adapté, alors c'était que pour la forme, hein, que pour le phrasé, mais un phrasé rap en allemand. Et ça donne ça.
Merci Billie Jean.
Tu rentres dans le club.
C'est ça, c'est exactement ça.
Ah, on est dans rap old school, début des années 80.
Ça. Ce qui est intéressant, mine de rien, non, mais on peut se moquer.
C'est hyper intéressant.
Mais
parce
mine
que
de
c'est...
rien, 80, c'est quand même tôt. Mm-hmm. Je crois que Rapture, c'est quoi? C'est 82? Rapture de Blondie?
Ouais, ça doit être ça, ouais.
À vérifier. Tu vois, on est quand même à ce moment-là où c'est pas courant dans un truc un peu pop. Ça va devenir un tube, ce morceau, globalement. Le rap allemand existe déjà à cette époque-là, mais ils rappent tous en anglais. Lui, il adopte une forme rap en allemand. Intéressant quand même, tu vois, au-delà de la blague, tout comme en fait chacun fait ce qui lui plaît, c'est pas si intéressant non plus.
Moi j'aime bien, chacun fait ce qui lui plaît. Plaisir coupable, j'avoue.
Tu as ton morceau ?
J'ai mon morceau et du coup, en fait, j'ai changé en cours de route.
Okay.
Parce qu'on parle beaucoup de rap français, on parle pas assez de rap francophone. Là, on parlait de la Belgique.
Ouais.
Il y a un groupe qui a été très important en Suisse qui s'appelait Double Pact.
Ouais. Bien sûr.
Avec notamment un producteur qui s'appelle Yvan qui a fait des tubes dans le rap français.
Yvan, okay.
Mais les deux rappeurs, Stress et Nega, étaient aussi très très bons. Et en fait, parce qu'ils étaient en Suisse, justement, ils avaient aussi ce pont avec l'Allemagne.
Ouais.
Et sur leur dernier album qui s'appelle Rien à perdre, ils ont deux morceaux avec des Allemands,
okay.
dont un morceau qui s'appelle Kidnapping. Alors, j'ai plus le nom des rappeurs allemands en tête, mais si tu tapes Double Pact.
T'as envie d'écouter ça serait
ouais,
ta recommandation.
Ça sera ma recommandation. Écoutez cet album Rien à perdre. C'est un très grand album de rap en français qui est sorti en 2002.
Mélie et Camouflo.
Voilà.
Et bah super. Kidnapping Double Pact.
Vous allez voir, ça monte en vitesse.
J'en ai rien à foutre de crier, tout le monde lève les bras. Yo, ma pompe à paintball, fait déjà blabla. Ma conscience me dit,
ça c'est début 2000, non?
Début 2002.
Ouais, ça.
Fuck le hold up, c'est un kidnapping. On le fait non-stop, tant
que
ce beat la swing.
Je trouve que Stress me fait penser à Ronca.
Ouais, c'est
un grand vocal.
C'est
le côté un peu.
Et là, juste après, il rappe en allemand, justement. Ich würde Mädchen abstellen, Pickup Truck am Parkplatz ab, pack mein Sach, gib mir Cash, Respekt, mach. Steck mich am Gebäude, gesamt bewacht, 0 Uhr nach, sammle meine Leute, heute Nacht ist der. Il est pas incroyable, Raphaël Dacroix.
Incroyable.
Il rentre même dans les records en allemand.
Suisse allemande, Suisse alémanique, incroyable.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'accueil.
D'être venu nous voir. On va te libérer pour que tu chopes ton train.
Merci beaucoup. Merci à l'équipe aussi qui est derrière.
Bien sûr, la bouclette. Merci à l'équipe de la bouclette. Merci Daz aussi.
C'est un plaisir.
En plus, il est venu, il est blessé. Et il vient quand même.
Ouais,
bravo.
Ouais, trois clavicules maintenant. On est là.
Merci aussi à François qui monte cette émission. À vous qui nous suivez, à Thomas évidemment. On compte sur vous. Si vous êtes là, c'est que vous kiffez le podcast de ouf parce que vous êtes resté jusqu'à la fin. Allez mettre un petit commentaire si vous l'écoutez en podcast sur les plateformes audio, une petite étoile et tout, ça nous aide. Un petit commentaire sur YouTube éventuellement.
Le référencement, c'est important.
Absolument. De toute façon, on se retrouve dans 15 jours pour discuter encore de musique. Ça va être passionnant, c'est sûr et certain, parce que DLT est toujours passionnant.
Mais évidemment, évidemment. Mais je demande quand même une deuxième session avec Raphaël.
À l'occasion.
Mais tu sais, on l'avait fait une fois. On avait eu plusieurs invités et à un moment pour fêter un peu un épisode spécial de DLT, on avait fait revenir trois invités ensemble qui se connaissaient pas. Enfin, tu vois, et les mettre ensemble. Peut-être qu'on fera, tu vois, Raphaël avec quelqu'un d'autre, etc. On mélangera avec Sofian. Pourquoi pas
avec Sofian, ce sera un grand plaisir.
Ah, ce sera très chouette.
À dans 15 jours, tout le monde. Ciao.
Ciao. Allez, tout le monde.